Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord d'être venus si nombreux. Pour évoquer donc avec nous ce soir un sujet quand même relativement sérieux, qui est la transplantation d'organes. Donc là, relativement sérieux, sérieux pour au moins trois raisons. Tout d'abord parce que la greffe, la transplantation, c'est un progrès médical majeur du XXe siècle, qui sauve, comme vous le savez, des vies, qui améliore la survie des patients, notamment pour les greffes d'organes vitaux, que sont le cœur et le foie. Cette avancée médicale résulte aussi du progrès d'autres disciplines, de nombreuses disciplines de la médecine, comme la chirurgie, on le verra tout à l'heure, l'immunologie, la pharmacologie et d'autres. Sérieux également parce que l'énergie qui est demandée par cette activité est très importante. C'est une véritable chaîne humaine, une chaîne aussi de compétences, depuis le prélèvement du greffon jusqu'à l'entrée au bloc opératoire, jusqu'au bloc opératoire pour la greffe et ensuite pour le suivi post-greffe. Par exemple, pour la greffe d'un organe donné, c'est environ une centaine de personnes, de professionnels de santé qui sont sur le pont au moment de la greffe. Et puis après, tous les professionnels de santé impliqués dans le suivi de greffe. Et puis sérieux enfin, parce que la greffe débute par un don. Le don, c'est un acte gratuit en France, un acte de générosité et de solidarité. Pour le rein, qui est le principal organe transplanté en France, vous savez, à peu près plus de 3000 transplantations rénales sont réalisées sur plus de 5000 transplantations d'organes solides. Rappelons donc que pour le rein, plus de 80% des greffes sont réalisées encore à partir d'un donneur décédé en mort encéphalique. Le don touche à l'intime, à notre conception de la vie et de l'éthique. Et le monde associatif, et notamment l'ADOT, l'Association pour le don d'organes et de tissus humains qui est représentée ce soir, connaît bien ces problématiques. Donc tout ça, ça fait que la greffe est un sujet sérieux. Mais ce soir, une fois n'est pas coutume, nous aborderons la transplantation d'organes par un aspect un peu plus léger, et voire même un peu plus ludique, en lançant un défi à nos trois orateurs, à nos trois intervenants de prestige. Alors ce défi, c'est de prédire l'avenir, c'est de nous dire les avancées que nous pouvons attendre dans le domaine de la transplantation à horizon 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire à horizon 2030. Parce que la transplantation d'organes commence par un don, nous débuterons la soirée par le thème du donneur vivant avec le professeur Mathias Büchler. Le professeur Büchler est responsable de l'activité de transplantation rénale au CHU de Tours, avec lequel nous avons une entente cordiale, on peut dire ça comme ça, et nous travaillons main dans la main. Tours réalise plus de 120 greffes par an, avec presque 20% de donneurs vivants. Et le professeur Büchler nous dira donc les avancées à attendre pour les greffes rénales avec donneurs vivants à horizon 2020-2030. Après le don, il y a la conservation de l'organe. Vous savez, cette phase très importante et critique avec l'objectif de limiter au maximum la souffrance de l'organe qui est privé d'oxygène jusqu'à sa reperfusion, c'est-à-dire au rebranchement chirurgical, en quelque sorte, dans l'organisme du receveur. C'est le point qu'abordera le régional de l'étape, le professeur Thierry Wett, qui est là-bas au fond, donc chef du service de biochimie au CHU de Poitiers. Mais c'est surtout le professeur Wett, en tant que directeur de l'équipe INSERM, d'une équipe INSERM basée à Poitiers, dédiée à l'ischémie-reperfusion, que nous avons invité ce soir. Professeur Wett, qui a été aussi néphrologue dans une vie antérieure. Et nous lui demanderons donc les progrès concrets à attendre de la recherche en matière de conservation d'organes. Et puis nous finirons... parce qu'il n'y a pas de greffe réussie sans chirurgie réussie, nous finirons par aborder les progrès à attendre dans le domaine chirurgical avec le professeur Benoît Barou, qui est chirurgien urologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialiste de la transplantation rénale. Il a beaucoup travaillé également sur la conservation d'organes en lien avec notre équipe INSERM basée à Poitiers. Il est notamment à l'initiative de la création en 2009 de l'école francophone du prélèvement multi-organes pour former les jeunes chirurgiens au prélèvement d'organes. Le professeur Barou est également président en exercice de la Société francophone de transplantation. Et il a enfin la particularité d'être un des rares chirurgiens français qui suit le traitement immunosuppresseur de ses greffés en post-greffe, comme dans les séries américaines où le chirurgien fait à peu près tout. Ben voilà, c'est l'exception française, il fait tout aussi. Voilà. Et puis donc nous clôturerons la soirée et ces trois interventions par une discussion générale avec vous tous en répondant à vos questions. Et donc avant de céder la parole au professeur Büchler, je voulais juste rappeler que cette soirée est organisée en marge donc d'un congrès international sur l'ischémie-reperfusion qui a lieu demain et après-demain à Poitiers à la faculté de médecine, à l'initiative des professeurs donc Barou et Wett. Ce congrès réunit d'éminents spécialistes internationaux, tout comme votre présence ici ce soir, témoigne finalement du dynamisme de Poitiers dans ce domaine de la médecine et dans ce domaine de la recherche médicale. Dernière petite information, votre soirée sera clôturée par un petit pot en haut, un petit pot à l'accueil à l'issue de la discussion. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et tout de suite Mathias Büchler va nous donner quelques informations sur le donneur vivant en 2030.
Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de venir à Poitiers. Je viens relativement souvent parce qu'effectivement, on a une coopération très, très forte. Juste en attendant que je trouve ma présentation sur l'ordinateur. J'ai découvert deux choses. Un, ici, on est sur un congrès sur les insectes et les biodiversités. Donc, il n'y aura pas de donneurs vivants à partir des insectes. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, en venant ici, j'ai garé ma voiture là où Antoine m'a dit de me garer, à côté de la cathédrale. J'ai découvert ici une impasse de la cathédrale. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une impasse de la cathédrale. Et en fait, au fond de cette impasse, il y a une porte et on peut rentrer dans la cathédrale. Donc, parfois, il y a une impasse, mais on peut aller au-delà. Et c'est un peu comme ça aussi dans la médecine. Il faut aller au-delà, il faut rentrer dans la cathédrale. Bon, bref. Ça, c'est le temps que j'arrive à ouvrir le...
Tu causes tellement que tu ne le fais pas.
Voilà. Des critiques fusent déjà, vous savez, voilà, c'est comme ça chez nous. Bon, donc, est-ce que je veux un pointeur ça va aller, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à pointer. Donc, vous avez reconnu Poitiers sur la gauche, donc je ne vous pointe pas. Donc, en fait, Antoine, il m'a demandé de faire... Un speech grand public sur le donneur vivant. Donc voilà, ça, je vais essayer de vous donner quelques chiffres, mais surtout des aspects particuliers, et peut-être vous transmettre un peu les difficultés que je rencontre de plus en plus. Voilà, et peut-être ça, on aura le temps de quelques questions à la fin. Donc à gauche, juste, vous voyez voilà, le futuroscope. Donc voilà, c'est là où il y a les futurs donneurs vivants. Donc il y a House qui est néphrologue. Je vous rappelle que Dr House était néphrologue. Et moi, j'ai commencé là, dans le bâtiment, je vous promets que c'est vrai, mais j'étais interne là. C'est mon vélo. Et ça, c'était un greffier qui arrivait après une opération en 92 au CHU de Tours. Et ça, c'est le nom du chef de service, M. Bagro, qui était cassé en fait là. Donc vous voyez, d'où on vient, je sais d'où je viens, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, sachez qu'on a fait quelques progrès, en tout cas au niveau urbanisme à Tours. Alors, si je savais, voilà. Alors, on peut aborder un peu la question assez simplement, et ça va vite. On peut définir les besoins donc des donneurs vivants. Encore une fois, on peut définir qui sont les donneurs. On va assez vite là-dessus. Et que devient le donneur, qui est actuellement une des préoccupations. Il y a des publications récentes qui ont été faites là-dessus. Et dans la prise en charge, lorsqu'on parle actuellement de donneurs vivants, ce n'est pas un changement de moteur, ce n'est pas quelqu'un à qui on enlève un rein comme ça ou qu'on laisse dans la nature. Et on ne nous donne pas suffisamment les moyens, à mon avis, en tout cas, on peut en discuter à la fin, pour que les donneurs éventuels, vivants, soient correctement suivis, parce qu'ils ont quand même été assez altruistes auparavant. Mais bon, ça fait partie de la discussion. Donc c'est juste... Alors, je ne vais pas vous bassiner avec beaucoup de chiffres. C'est juste vous dire que, en fait, la transplantation est partie au départ par les donneurs vivants, unique exclusivement dans les années 50, 60. En tout cas, les premières transplantations rénales étaient faites qu'avec des donneurs vivants. Et en fait, le principe de donneur décédé, en fait, c'est venu quelque chose qui, relativement plus tard, en tout cas beaucoup plus dans les années 80, vous voyez qu'au début, il y avait autant de donneurs vivants que de décédés. Après, ça s'est complètement déséquilibré et actuellement, donc ça c'est de 2010, c'est 10% des transplantations étaient de donneurs vivants. En France, il y a des pays où c'est largement supérieur, en Norvège c'est 70%, aux États-Unis c'est plus que 50%. On peut en discuter, quels sont les avantages, les inconvénients, est-ce qu'il y a une pression de la société ou pas. Mais en tout cas, en France, ce sont les chiffres qui étaient en France et donc c'est devenu vraiment un challenge depuis maintenant 3, 4 ans, 5 ans. Puisque la part des donneurs décédés, en tout cas prélèvement à perte de donneurs décédés, a stagné, alors qu'il faut qu'on augmente le pool des donneurs, en tout cas si on veut répondre aux besoins. Alors, qui peut donner? Donc ça, vous allez sur le site de l'Agence de biomédecine, vous lisez des textes. Donc il y a des aspects réglementaires, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a une évolution dans le temps qui a changé. On a introduit des notions, au départ c'était vraiment la famille proche, puis ça s'est élargi aux conjoints, et puis depuis un an et demi, vous le savez probablement, on peut donner aussi un ami. Alors qu'est-ce qu'un ami? Moi je ne le sais pas déjà, mais le juge doit savoir qui est un ami. En tout cas, la législation française permet un don à partir d'amis, quel que soit finalement le type de définition. Donc il faut, ça c'est clair, sachant que le don à partir d'un ami, à part des, il y a aussi des aspects immunologiques, on va en parler rapidement, il y a quelques aspects aussi de relationnels, et on va voir dans la décision d'aller au don du vivant, je pense que la relation joue un rôle. C'est ça ce que je vais vous transmettre. C'est finalement, on ne peut pas uniquement dire qui peut donner et qui peut recevoir, mais c'est le couple qui va jouer. Ce n'est pas du tout pareil entre un homme pour sa femme qui a 72 ans, qui veut faire quelque chose, que le copain de 35 ans, qu'on connaît à peine, pour quelqu'un de 36 ans. Là, la relation est un peu différente. Et ce qu'on va faire au donneur, le risque qu'on prend éventuellement pour le donneur, il est quand même un peu différent. Je ne sais pas si je vous transmets la problématique, mais on va en parler. Donc, il faut, à l'évidence, préserver le donneur. Donc, il faut que le risque zéro n'existe pas. Il y a eu beaucoup de papiers autour de ça. Aujourd'hui, il y avait dans le passé beaucoup de comparaisons, le donneur vis-à-vis de la population générale. En fait, il y a un concept qui sort maintenant de plus en plus, qui est bien décrit par un Américain qui s'appelle Segev, mais qui est de dire finalement quel est le surrisque que quelqu'un prend s'il ne donnait pas. Donc pour la personne donnée, le fait de donner, qu'est-ce que ça lui ajoute en termes de risque, que ce soit en termes de risque rénal pour le don du rein ou en termes de risque éventuellement anesthésique et chirurgical. En tout cas, il ne faut pas laisser tomber les donneurs. Je vous rappelle, en tout cas, c'était la notion que j'avais il y a un an. Aux États-Unis, un donneur était suivi jusqu'à 2 ans après le don, et après, tout était pris en charge jusqu'à 2 ans après le don, puis plus rien. Et vous comprenez bien que 2 ans après le don, c'est rien dans une vie. Et donc, cet abandon est actuellement beaucoup accusé aux États-Unis. On essaie de revenir là-dessus, mais il faut clairement être conscient lorsqu'on va à un don, qu'on essaie d'assurer le suivi de ce donneur toute sa vie. En tout cas, ça me paraît assez logique. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et pour vous donner une impression, parce que ce paiement du donneur, cette prise en charge du donneur, elle est à la charge de l'hôpital qui prélève le donneur vivant. Et donc, chaque hôpital en France, c'est 33 hôpitaux ou quelques-uns qui vont avoir quelqu'un aux affaires médicales ou à la direction financière qui vont avoir des interprétations différentes. Et donc, ce n'est pas du tout si homogène que ça. Et si vous avez, parce que nous, vous avez compris, on ne nous écoute plus, là, les médecins. On vous écoute, vous. Si, plus que nous. Et donc, il est ici un message clairement à identifier, c'est que il y a aussi la société de transplantation, c'est vrai. En tout cas, dans le concept, c'est quelque chose d'important. On ne dit pas à quelqu'un, donnez-moi, et dans 2 ans, on passe à autre chose. Non, en tout cas, ce n'est pas mon concept. Alors, jusqu'où un donneur peut donner? On va en parler un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Il n'y a pas de limite légale à cet âge-là. On pousse un peu les limites. Et là, va venir un tout petit peu cette discussion sur on donne à qui, finalement. Finalement, vous allez voir que le donneur idéal, en tout cas le donneur qu'on pense facilement prélever, il n'existe quasiment pas. Et donc, on va découvrir des comorbidités, ce qu'on appelle des comorbidités. Jusqu'à où on accepte ou on peut accepter des comorbidités. Il y a des règles, on doit suivre des règles, mais on est quand même parfois sur un fil. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans la transplantation rénale touche beaucoup des maladies génétiques, vous le savez probablement, il y a des polykystoses, maladies d'Alporte, maladies de Fabry, bon bref, un certain nombre de maladies dites génétiques. Et si un don donne un vivant au sein d'une famille ou une maladie génétique, ça peut poser certains problèmes. Un exemple simple, c'est que polykystose rénale, votre mari a une polykystose rénale, vous souhaitez lui donner le rein, mais vous avez aussi un enfant qui a une polykystose rénale, donc il y a une discussion, est-ce que je garde mon rein pour éventuellement mon enfant ou est-ce que je le donne à mon mari? Donc c'est des discussions longues avec la famille qu'on ne fait pas derrière un ordinateur et qu'il faut être à l'écoute. Et c'est du temps que notre système actuel de la T2A et de la valorisation des actes ne compense nullement, ça n'existe pas. Donc le temps qu'on discute avec des gens n'existe pas. Après, il y a l'aspect anatomique. Alors, parce que vous avez parfois le plus beau donneur, le plus beau donneur potentiel, il n'a rien, mais on lui découvre après qu'il a 3 artères ou 2 veines, et là, il ne comprend pas qu'il ne peut plus donner. Mais sachez que le rein est le... Je dis ça devant le chirurgien, mais il voit probablement l'organe le plus souvent, on ne dit pas mal formé, avec le plus de variantes anatomiques. 70% de la population n'ont pas ce qu'on raconte finalement dans un cours de médecine. On dit une artère, une veine. Finalement, très, très, très souvent, il y a une polaire, 2 polaires, 3 polaires, 3 veines et tout ça. Et ça, chez un donneur vivant, c'est une complexité supplémentaire puisqu'on n'a pas ce qu'on appelle un patch. Je sais pas, en tout cas, on doit couper les vaisseaux au rat. Et donc, c'est une difficulté complémentaire chez le donneur vivant qui existe beaucoup moins chez le donneur décédé. Et donc, il y a aussi... j'ai mis la compatibilité HLA parce qu'on a de plus en plus de situations, vous devez être conscient, en tout cas le savoir, c'est que 20 ou 30% des transplantations rénales actuellement touchent des 2e ou 3e et 4e greffes, voire 5e. Et donc c'est des retransplantations. Et donc ces retransplantations se font chez des patients qui ont des anticorps. Bon, bref, on ne va pas faire de l'immunologie, mais sachez que l'accès à la greffe est plus compliqué. Et parfois, on va trouver un frère qui est full match. Mais du coup, ça crée une pression, alors qu'on ne veut pas créer une pression. Donc, quelle est finalement... Parce qu'on va dire, vous êtes ingreffable, sauf pour votre frère. Et donc, du coup, le frère peut... Ou la sœur, bien sûr, il n'y a pas de sexisme. Hein. Donc, peut se sentir... Parce que c'est entre frères et sœurs, cette possibilité. Peut se sentir un peu... En tout cas, pas en liberté complète par rapport à cette décision. Alors que par ailleurs, on a cette liberté. Mais là, parfois... Il faut en être conscient qu'on ne devient pas des gens qui... ce qu'on appelle le syndrome du vautour, c'était ce qu'on appelait les transplanteurs dans le passé, de trouver beaucoup de greffons, un maximum de greffons, à n'importe quel prix. Je vous jure qu'on n'est pas comme ça. Mais en tout cas, il faut être conscient que cette pression n'existe pas. Alors, qui est prélevé? Alors ça aussi, c'était l'agence de biomédecine. Je passe vite dessus, donc vous avez le conjoint, vous avez ascendant, direct, indirect, ça c'est les chiffres de l'agence biomédecine. Je vais vous donner les chiffres de Tours en exclusivité. Alors, Tours a fait 101 transplantations à partir de donneurs vivants depuis le départ, donc on a fait 101, donc 11 en pédiatrie, et donc vous avez les couples ici. Alors, vous allez faire très vite du sexisme, donc les femmes donnent plus à leurs hommes que les hommes à leurs femmes. Alors là, vous allez dire... Normal, femme plus généreuse, pas du tout. C'est que les hommes sont plus souvent malades. 70% ou 65% des hommes sont atteints d'insuffisance rénale terminale. Alors donc c'est une maladie qui touche plus les hommes. Donc les femmes font juste leur devoir. Bon, d'accord. Non mais, bon bref, vous avez compris. Bref, donc il y a plus de femmes qui donnent à les hommes à Tours. Les sœurs donnent un tout petit peu plus à leurs frères. En tout cas, bon bref, c'est assez équilibré. Le père donne étonnamment... un peu plus, en tout cas pas moins que la mère, parce que tout ça est... alors pour la petite histoire, je vous le raconte parce qu'on est à Poitiers, mais sachez qu'aux États-Unis, ils ont fait une étude là-dessus. Pourquoi il y a... en tout cas, en fait, aux États-Unis, c'est un peu plus les mères, et ce qu'ils ont dit, c'est que comme 10% des enfants ne sont pas de leur père, pour ne pas découvrir que ce n'est pas le père, c'est les mères qui donnent. Bon, bref. Bon, il m'a demandé d'être ludique et provocateur, donc je le suis. Voilà. Donc nous, on a fait deux transplantations à partir d'amis. Donc amis, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, c'était des témoins de Jéhovah, c'était compliqué. On peut en parler, une cousine. Et on a fait un résidu opératoire. Alors là aussi, pour vous donner, il y en a eu deux en France, à ma connaissance. Et je pense que c'est quelque chose peut-être à creuser. Sachez que... très, 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 très rarement, il y a parfois des reins qui sont enlevés et qu'on ne peut pas sauver chez quelqu'un qui a opéré des reins. Chez nous, c'est une situation catastrophique où quelqu'un a eu un coup de couteau qui a lésé complètement l'urètre et les vaisseaux. Et finalement, les chirurgiens se retrouvent avec un rein qui était de bonne qualité, mais l'urètre était coupé, la veine, l'artère aussi. C'était inimplantable chez la personne là. Et donc, on a déclenché tout un le plan hors sec à l'ABM en disant, mais ça, pourquoi on ne le grefferait pas à quelqu'un? Donc, on a eu l'autorisation au 8 heures et on l'a greffé à quelqu'un d'autre et ça marche toujours. Donc, ça s'appelle le résidu opératoire. Et sachez qu'aux États-Unis, en Australie, il y a eu une série qui a été publiée sur des néphrectomies pour tumeurs rénales. Donc, on a enlevé des reins, il y avait une tumeur dessus. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé la tumeur ex vivo, qui était un peu superficielle, et on a proposé ce type de rein à des receveurs, avec des résultats qui sont plutôt bien. Donc, les gens savaient qu'ils avaient un rein où il y avait une tumeur dessus, qui étaient des petites tumeurs qui étaient enlevées. Mais maintenant, ça ne se fait plus parce que maintenant, les urologues sont de plus en plus performants. Donc, ils font des néphrectomies partielles où ils laserisent, où ils font des... Donc, c'était un accès à la greffe, mais qui n'est plus d'actualité. En tout cas, je ne vous le propose pas pour 2025. Et donc, juste pour vous dire qu'on a fait une... L'idéal, bien sûr, c'est un donneur des vraies jumelles, du vrai jumeau. Donc, ça, c'est un couple de tours. Donc, ça, c'est la receveuse et ça, c'est la donneuse. À 19 ans, et donc j'ai reçu hier, c'est vrai, une invitation pour le mariage de la receveuse qui va se marier donc le 16 octobre. Donc il y a parfois des belles histoires. Je ne sais pas si le mariage se finira bien, mais pour l'instant, la transplantation se passe bien. Donc on a un couple, en 2013, je me suis renseigné, il y avait 11 transplantations à partir de jumeaux en France. Parce que ça, c'est assez compliqué, parce qu'il faut vérifier que le jumeau n'a pas une maladie qui peut avoir touché, donc on fait toute une enquête pour ça. Alors, je vous ai dit que devient le donneur. Donc, il faut être conscient que le donneur, il laisse quand même un tout petit peu de glomérules sur le tapis. Et ce n'est pas comme si rien se passait. Donc, c'est juste, il faut que vous soyez conscient. Donc, ça, vous n'avez peut-être pas trop l'habitude des chiffres, mais sachez que 100 millilitres par minute, c'est une clairance normale. C'est le rein. Il est pur, il nettoie le sang, bon, voilà, c'est ce qu'il doit faire. Et donc, ça a une mesure, ça s'appelle la clairance. Et en fait, la normale, c'est autour de 100. Et vous voyez, après un don, c'est une moyenne, on perd à peu près 20% de sa clairance. Et donc, lorsqu'on a une créate à 80 avant le don, on a 100 de créatine après le don. C'est à peu près la moyenne. Et donc, il faut prévenir, bien sûr, le donneur de ça, que vous aurez une créatine qui va être plus élevée. Et donc, on perd quand même quelque chose. Ce n'est pas comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est une erreur. Mais normalement, ça reste stable. Pas toujours, mais normalement, ça reste stable. C'est là, il faut être sûr que le donneur n'a pas une maladie à risque rénal qui peut effectivement, c'est la double peine, il donne un rein et il a une maladie qui altère la fonction rénale. Et là, vous avez des accidents éventuels possibles. Et il y a eu... je crois 3 ou 4 personnes en France qui sont dialysées maintenant après un don du rein sur l'ensemble des donneurs. Alors, quels sont les avantages et les risques lorsqu'on a un donneur vivant? Donc, à l'évidence, le donneur vivant, il y a la programmation de la greffe. Vous savez quand est-ce que ça a lieu. Donc, c'est un grand... Vous connaissez votre chirurgien. Parfois, c'est pas mal. Donc, c'est pas celui qui le garde. Et donc, du coup, quand vous avez... Comme c'est programmé, vous pouvez remonter le temps et vous pouvez faire des choses qu'on fait de plus en plus maintenant. Vous pouvez désensibiliser les gens, c'est-à-dire vous pouvez enlever des anticorps. Bref, vous pouvez faire un timing assez précis puisque vous connaissez la date de la greffe. Lorsque vous ne connaissez pas la date de la greffe, lorsque vous êtes sur une liste d'attente, on n'a pas ce temps-là de préparation. Et donc, du coup, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un donneur décédé. Et donc, on parlera peut-être rapidement tout à l'heure, mais il y a maintenant... depuis 2 ans, des greffes dites ABO incompatibles, c'est-à-dire le groupe sanguin n'est plus du tout une exclusion. Après, il faut connaître le taux d'anticorps et des choses comme ça, mais à condition que ce soit un donneur vivant. Avec des donneurs décédés, le programme existe, mais c'est beaucoup plus compliqué à monter. Et ça aussi dans les groupes avec des anticorps d'HLA. Donc, on connaît bien sûr la compatibilité HLA à l'avance. Les résultats sont meilleurs avec le donneur vivant qu'avec le donneur décédé à long terme. Pour le receveur, je parle. Donc, il a plus à gagner qu'à perdre, finalement, le receveur. Vous pouvez, finalement, sur la liste d'attente, on est sur une liste d'attente, le fait d'être en dialyse augmente les chances d'être greffé parce que ça augmente votre score. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, lorsque vous êtes un donneur vivant, finalement, vous n'avez pas besoin de ce score pour avoir un accès de la greffe. Donc, la greffe préemptive est probablement plus facile. Préemptive veut dire sans passer par la nécessité de la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse. Alors, qu'est-ce qu'un donneur idéal? Bon, donneur idéal, donc il n'a pas de maladie cardiovasculaire, il n'a pas de maladie rénale, il n'est pas gros, il n'est pas maigre, il ne prend pas de médicaments, il n'a pas d'antécédents chirurgicaux, on n'a pas opéré du ventre, et il a une fonction rénale normale, il n'a pas de variante anatomique, il est capable d'évaluer le risque personnel, il est observant et rigoureux, il a entre 40 et 55 ans, bref, il n'existe pas, c'est moi, mais je... C'est... Non, parce que le dernier truc, ça ne marche plus, est bien dans sa tête, parce que là, c'est quelque chose, je me méfie le plus, et on peut en parler à la fin, mais celui qui dit, eh ben, pour moi, c'est très clair, je donne à mon frère, et ça a toujours été clair pour moi, je l'adore, ma sœur, et tout ça, ça, c'est le plus de méfiance qu'il faut mettre à ce type de donneur, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas du tout pris le recul de l'importance, de la gravité, et donc on va voir tout à l'heure un peu comment on va gérer ça. Comment on essaie de gérer. Et donc, mon appel à Poitiers, il faut que vous battiez pour qu'il y ait une psychologue dans le service de transplantation. C'est indispensable. On a un tour depuis 4 ans. Non, d'accord, ok, je ne savais pas. Mais bon, il pleure à chaque fois, il me dit, parle des psychologues. Donc, ça fait 3 ans. D'accord, très bien. Non, mais Et pour la pitié. C'est indispensable. Un programme de donneurs vivants sans psychologue est un programme... voué à l'échec, et pas voué à l'échec en fait, et mal fait, bon, c'est ce que je pense, hein. Et je pense que depuis qu'on l'a, non, c'est vraiment des aspects, et d'avoir le temps, et bon bref, ils ont leur temps pour ça, il y a des très très bons psychologues, vraiment, elle est à Tours. Bon bref, alors le donneur vivant limite, alors du coup, on va arriver, jusqu'à maintenant. Oui, je suis désolé, mais bon, d'accord, donneur vivant limite, je vais aller vite. Voilà. Tu m'as dit de... Bon, bref. Le futur, il va venir, c'est une discussion. Bon, bref, alors, le donneur limite, il est multi. Il y a les philosophes qui s'y mettent, les éthiciens, il y a plein de gens qui disent qu'est-ce qui peut être un... Et en fait, il faut quand même avoir un peu notre avis de nous, les médecins, dans l'histoire. Et finalement, dans la vraie vie, on est plus dans une situation... Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais il joue au poker. Il y a le regard méfiant, le regard tendre, charmant, et tout ça. Bon, bref, il joue au poker. Et nous, on est les médecins, là, on doit prendre une décision. Et finalement, on ne sait pas qui... Et finalement, est-ce que c'est le patient qui doit prendre le risque? Est-ce que c'est le receveur qui prend le risque? Est-ce que c'est le médecin qui prend le risque? Et c'est très, très difficile. On marche un peu sur les œufs. Et encore une fois, vous êtes pour la plupart des patients, si j'ai bien compris, mais... Je me méfie aussi des patients, puisque lorsque ça ne se passe pas bien, tout va bien lorsque ça va bien, lorsque ça va mal. On a parfois des surprises. Donc, qui doit décider? Qui doit décider, finalement, si on aboutit à ça? On est tenté, on peut se dire, voilà... alors, parfois, tout le monde a envie d'y aller, mais voilà, on ne sait pas qui va se prendre ça sur la tête. Donc, voilà, on est comme une souris. Vous nous demandez de trancher, de décider. Et donc, mais ça veut dire quelque part aussi de prendre des responsabilités et d'avoir une intégration. Et donc, il y a plein d'articles qui sont sortis sur ce que deviennent les donneurs après. Je vais passer dessus assez vite, on peut en parler tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a évalué le risque pour un donneur vivant prédictif, pour quelqu'un de 20 ans. Le risque est bien sûr pas le même pour quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 60 ans. Donc on peut dire, parce qu'on va évaluer le nombre d'années qui sont à vivre devant quelqu'un. Quelqu'un qui a 20 ans, il a 70 ans devant lui, l'autre il a 50 ans et tout ça, c'est comme ça. Et donc on peut finalement dire quel est le risque, le sur-risque que vous prenez. Donc c'est un peu ça que je dis un peu aux patients. En fait, vous doublez le risque d'être en insuffisance rénale terminale si vous avez 20 ans et vous donnez. Doubler le risque, ça peut faire très très peur. Si je vous dis, vous passez de 2 pour 1000 à 4 pour 1000, ça vous dit moins de choses. Mais ça dépend comment on dit les choses. C'est de la communication. Il paraît que c'est enregistré, mais il faut la Nouvelle République. Donc la façon dont on dit les chiffres, on dit deux choses, deux fois la même chose. Une fois on fait peur et l'autre fois on dit, ah ben c'est pas grave. C'est là où il faut être communicatif, il faut être clair, il faut que vous compreniez les chiffres et qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. Et donc, finalement, on est dans un concept avec un donneur. Il y a plein de choses, qui a des responsabilités, qui a le je passe vite parce qu'il me presse. Et donc en fait, il faut se poser la question, quel est finalement le bénéfice global? Et donc, il faut tenir compte de la situation globale. Je vous ai parlé du couple tout à l'heure, et pas tenir compte uniquement des individus séparés. Et quand il y a une notion qui était aux États-Unis, qui est née, la qualité de vie commune, donc qui est la qualité de vie ensemble, A plus B, c'est receveur plus donneur. Et donc, de faire quelque chose ensemble pour évaluer le risque à donner et qu'est-ce qu'on fait la qualité de vie des deux ensemble et pas séparément. Donc c'est un concept. Et donc juste, les Américains, ils ont plein d'idées. Ils disent par exemple l'altruisme, donc le fait de donner. Est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un de donner alors qu'on les envoie en guerre? Un État peut dire, on peut aller en Irak, c'est ce que disent ces Américains, mais ne pas leur dire, vous ne pouvez pas prendre le risque pour donner un rein pour votre frère. Est-ce que l'État a le droit de le dire? Après, il y a la deuxième chose, c'est de dire, est-ce qu'on va à la limite de ce qu'on pense parce qu'il n'y a pas assez d'organes? Finalement, si une famille dit, greffez-moi très très vite, est-ce que ça ne crée pas une surpression et de finalement, on prend des risques qu'on ne devrait pas prendre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est les ressources. Donc la dernière, c'est que le fait de connaître le couple change finalement le risque qu'on est prêt à prendre. Un couple qui vit depuis 50 ans ensemble est différent qu'un copain qu'on a trouvé sur Facebook. Donc c'est... En gros, c'est un peu ça. Et évidemment, le donneur vivant le plus naturel, celui qui est le plus simple, c'est le parent pour ses enfants. Toutes les autres situations peuvent être compliquées. Donc, maintenant, il y a des dons croisés et transplantations. Alors, je vais venir. Et la désémination pré-greffe. Donc, il y a des programmes du futur, qui existent déjà de dons croisés où on n'est pas compatible avec un donneur, avec un receveur. Donc, il y a une chaîne qui est installée. Donc, c'est beaucoup fait aux États-Unis, c'est fait en Corée du Sud, c'est fait également aux Pays-Bas, dans les pays européens. Ça commence en France. En France, c'est juste le don croisé. Vous avez le droit de donner à une personne A ailleurs, si elle est compatible, plus compatible par rapport à une autre personne. C'est lourd d'organisation. Je ne rentre pas plus dans les détails. Alors, le donneur vivant en 2010, c'était lui. Il était beau, il était riche, il avait tout ce qu'il fallait. Donc, il fallait lui prendre le rein. Mais ce type de donneur n'existe pas. Et maintenant, les donneurs vivants, c'est ça. Donc, les donneurs vivants... le donneur vivant, il marche à gauche, hein, c'est en France, donc il se prend la voiture en face. Donc en fait, le donneur vivant, il y a des couples, je vois deux fois par semaine des gens entre 72 et 78 ans qui disent voilà, je veux donner. Et donc, tous les comorbidités, parce qu'ils n'ont pas la tranche de clowné, hein, c'est des gens, ils sont là, tremblants, et donc. Et parfois, c'est difficile. Et difficile aussi, ils disent, c'est ma vie. Et finalement, une discussion qu'on peut avoir, est-ce que je peux mettre quelqu'un en contre-indication? On a eu la discussion un peu lorsque le receveur a une maladie, un cancer de prostate, ça évolue lentement. Les urologues vont dire, il ne faut pas le greffer. Mais si j'ai un donneur vivant, j'enlève en rien au pool des donneurs de partout. Donc, je peux augmenter l'accès à la greffe à quelqu'un si je fais ça. Donc, je vous promets que la discussion est longue et on n'a pas toutes les solutions. Donc, ça, c'était en 2015. C'est actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, en 2020, on a des donneurs altruistes. Alors, sachez qu'il y a des articles américains qui sont sortis il y a 7-8 ans qui ont dit les néphrologues, donc Thierry, il est néphrologue, Touchard, il est néphrologue, bon, il était néphrologue. Tous les donneurs, tous les gens qui sont conscients qu'il y a un problème de donneur doivent donner. Donc, ils sont allés jusqu'au bout du concept. Et donc, il y a des néphrologues américains qui ont créé un club de donneurs de reins. Et donc, il y a tout un groupe de néphrologues américains qui ont donné un rein comme ça à la société. On dit, voilà, comme je connais le problème, je suis conscient du problème, c'est un problème de la société, donc je dois donner. Oui, donc, c'est poussé à l'extrême, mais c'est 2020. Hein. Mais, donc, Touchard aura encore 5 ans, voilà, Thierry, voilà, prépare-toi. Mais en tout cas, le donneur altruiste comme ça, voilà, il va nous attendre. Alors après 2030. Donc 2030, on va peut-être voir le donneur vivant, on ne sait pas, mais en tout cas, vous savez qu'il y avait, on n'était pas loin d'arriver au. Thierry t'a reconnu, hein, que c'est un cochon. On n'était pas loin du donneur vivant à partir des animaux, ce qu'on appelle la xénogreffe, et finalement est arrivée la vache folle. La vache folle a tout arrêté, tous les programmes. Et actuellement, il y a peut-être une petite lumière qui est rallumée. Et bon, 2030, c'est quand même dans 16 ans. Peut-être c'est ça. Donc voilà, pour le petit prince, on verra peut-être un petit cochon dans le chapeau. En 2040, on n'aura plus de greffons, on n'aura plus besoin de ça, ben, je pense. En tout cas, on va avoir des cellules souches mésenchymateuses. Donc tout ça va être... Donc on va orienter une organogenèse ex vivo. Donc on va réparer les cellules, peut-être même avant qu'on soit en stade d'insuffisance rénale terminale. Bref, on va faire pousser des organes peut-être à partir de vos cellules. Bon, bref, on saura, mais on n'est pas... Ça ne me paraît pas 35 ans. Bon, bref, à discuter ici. Et donc, juste une dernière chose, c'est que quoi que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire, la transplantation à partir d'un vivant, c'est une situation particulière. C'est magnifique quand ça se passe bien, mais c'est hyper compliqué quand ça se passe mal. Et je l'ai vécu deux fois. Quand ça se passe mal, c'est... Et le donneur, lorsque le donneur, tout s'est bien passé chez le donneur, mais il y a ça trembose chez le receveur, ça crée des tensions, et y compris dans l'équipe. Donc il faut en être conscient, il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça ne fait pas être bien dans sa tête quand ça arrive. Et voilà, donc nous, on n'a pas de futuroscope, on a un rétroscope. Et voilà, il est joli aussi. Et voilà, merci.
Merci beaucoup, Mathias, pour ce panorama du donneur.
Tu m'as dit une demi-heure. Ça fait 35 minutes.
Ça, c'est le côté hégémonique. Mais bon. C'était fort intéressant. Effectivement, on peut y revenir tout à l'heure dans la discussion générale si vous avez des questions pour Mathias. Donc après le don, et on a vu que ce n'était pas toujours facile, même quand on avait un donneur vivant motivé, après le don, il y a la phase donc de conservation de l'organe, une phase clé, et il y a beaucoup de recherches sur cette phase-là pour améliorer cette phase, pour faire en sorte que le greffon, que l'organe souffre moins. Et c'est le sujet, le thème de l'unité de recherche INSERM, dirigé à Poitiers donc par Thierry Huette. Et donc Thierry, tu vas nous parler des progrès à attendre de la recherche dans ce domaine à horizon 2030.
Merci d'abord d'être là effectivement pour cette conférence. Merci d'abord de me donner effectivement l'opportunité de vous parler d'un sujet qui est un sujet d'importance pour l'unité. Rendez-vous dans 10 ans sur la transplantation d'organes, c'est peut-être beaucoup moins ludique, hein, finalement, cette affaire-là, parce que déjà, la transplantation d'organes, dans le contexte de la conservation, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat, surtout qu'on est basé sur beaucoup d'empirisme. On peut vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans la conservation des organes, surtout qu'on est dans une situation où on a un énorme retard en termes de fourniture d'organes, entre guillemets, si je peux employer un terme comme celui-ci, par rapport effectivement au nombre de gens qui sont inscrits en liste. Il faut dire que la transplantation, bien entendu, est quelque part victime aussi de son succès. Donc très clairement, un retard pour ces patients qui attendent. Donc forcément, on va aller chercher d'autres greffons. Dans une autre vie, effectivement, j'étais néphrologue et il est certain qu'à l'époque, j'aurais proposé les greffons par rapport aux donneurs qu'on a actuellement. Je pense que j'aurais eu une carrière beaucoup plus courte en néphrologie. Et j'aurais certainement eu quelques difficultés avec mes patrons. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on a des donneurs qui ont évolué, qui ont vieilli, qui ont des facteurs de comorbidité qu'on a maintenant beaucoup plus de facilité à tolérer, ce qui était moins le cas, effectivement. C'était un peu avant 98, quand j'étais néphrologue. Donc on les tolérait beaucoup moins à cette époque. Et surtout, de nouvelles sources de donneurs, et notamment les donneurs décédés après arrêt cardiaque, ce qui complique un peu les choses, puisque ce sont des patients qui font un arrêt cardiaque et qui, naturellement, ne sont pas réanimés, ou du moins, la réanimation n'a pas été un succès, et donc ces patients deviennent éligibles comme donneurs. Tout ça fait, bien entendu, que l'on a des organes qui sont sensibles à la conservation, sensibles à ce processus qui est absolument incontournable, puisque la conservation d'organes se situe entre, finalement, le donneur et le receveur, et qu'on utilise des choses qui sont relativement simples, puisque la température de conservation est 4 degrés. Quand on demandait à l'époque à un des pionniers qui a été à l'origine de travaux importants sur la conservation quelle était la raison du 4 degrés, sa réponse était faisait assez froid dans le dos. Pour l'hypothermie, c'est un peu normal, puisqu'il répondait « c'est la température de mon frigidaire ». Donc, ce qui veut dire qu'on avait quand même des arguments solides scientifiquement qui nous faisaient garder les températures, nos organes à 4 degrés. Et vous voyez, alors, elle a beaucoup évolué d'avant, parce que moi, j'ai connu l'époque de la simple glacière un peu cylindrique. Donc, on est toujours un peu dans ce registre-là. La glacière, maintenant, est un peu plus évoluée. Et surtout, on a cette machine de perfusion, effectivement, qui est là aussi quelque chose d'assez ancien, mais qui revient à l'ordre du jour, puisque, comme je vous l'ai dit, on a de plus en plus, effectivement, de greffons qui ne sont plus issus, j'allais dire, de donneurs, entre guillemets, qu'on pourrait définir comme standards ou idéaux. Et bien entendu, le dernier aspect, c'est l'arrivée chez le receveur. Tout ça se fait avec des sauts de température, 37, puisque c'est la température du donneur, c'est notre température à tous, 4 à 6 degrés, c'est la température de conservation, donc c'est de l'hypothermie naturellement, mais on n'est plus connecté au vaisseau et il n'y a plus de sang qui circule, donc c'est aussi l'hypoxie, et le réchauffement à 37. Le seul problème, c'est qu'on est programmé pour vivre à 37, on est programmé pour recevoir de l'oxygène, on n'est pas du tout des animaux ayant effectivement la capacité d'hiberner, on ne sait pas réellement faire. Alors c'est quoi la conservation ? Ben, la conservation, c'est quelque chose qui est franchement pathologique, mais que l'on transforme en quelque chose de franchement thérapeutique, puisque c'est une hypothermie, une hypoxie. Pour conserver ces organes, on les rince, on les retire, on retire le sang, effectivement, on met une solution de conservation à la place, qui est préparée à 4 degrés, qui va rincer ces organes et débarrasser donc du sang circulant, ce qui veut dire que ces organes ne sont plus alimentés par le sang, ne reçoivent plus d'oxygène, ne reçoivent plus de nutriments. La durée de conservation est variable. Un donneur vivant, comme vient de vous parler Mathias, c'est quelque chose qui est très court. Probablement d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien, puisque c'est en général le double de survie des greffons venant des donneurs décédés en mort encéphalique ou après arrêt cardiaque. Et le principe reste naturellement l'hypothermie pour les raisons scientifiques que je viens de vous exposer. La reperfusion, eh bien, c'est la restitution de la circulation sanguine dans cet organe avec un retour d'oxygène, le retour du sang, le retour des substrats qui sont effectivement dans le sang, qui vont être utilisés, et un réchauffement. Tout ça, naturellement, l'organe n'est pas réellement programmé pour le faire. On n'est pas des espèces hibernant ou hivernant, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout planifié pour que notre patrimoine génétique mette en route effectivement un certain nombre de réactions pour le faire. Alors, on est resté sur de l'empirisme, hein, c'est clair. Des choses sont en train de bouger. Effectivement, une unité comme celle que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui à Poitiers travaille clairement dans, je dirais, les nouveaux concepts, dans la compréhension de mécanismes. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui existent. Hein. Au niveau des solutions de conservation, on les a fait évoluer naturellement avec de nouveaux composants. Les machines de perfusion aussi, on est en train de faire évoluer les choses. Et on verra tout à l'heure, effectivement, comment les choses sont en train d'avancer. On a clairement les apports des médicaments qui sont d'un intérêt, de nouvelles molécules sont en train d'arriver, et après des choses qui sont déjà un petit peu plus du niveau de la génétique, mais qui sont déjà présentes, ce sont des modifications d'expression du génome qui va se traduire par des modifications des protéines. Le donneur également, puisqu'on y travaille aussi, et on a là aussi un certain nombre de procédures qui sont en train de se mettre en place, qui sont validées et qui évoluent. Et chez les receveurs, il y a là aussi un certain nombre de choses que l'on peut mettre en place avec déjà... On n'est pas à 15 ans, on n'est pas à 20 ans, c'est déjà présent, c'est l'utilisation de la thérapie cellulaire comme traitement adjuvant. Alors, la machine de perfusion aujourd'hui, c'est simple, hein, on a transformé la conservation statique de la glacière avec une pompe, cette fois-ci, qui pousse le liquide de conservation, on est toujours à 4 degrés, et on perfuse cette fois-ci le rein qui est ici dans son petit filet, en ayant cathétérisé l'artère rénale, et donc en faisant circuler une solution de conservation qui est un peu différente de ce qu'on utilise quand on prend des reins en statique. Alors, l'évolution par rapport à ça, on voit arriver un certain nombre d'autres prototypes qui sont actuellement utilisés. Le principe reste le même, on a toujours une pompe, on a toujours effectivement quelque chose qui circule, mais commencent à arriver des notions de modification de l'ambiance gazeuse et en particulier l'utilisation d'oxygène pendant cette conservation ou pas. Et là, c'est un point sur lequel nous, on a travaillé et il semble qu'on ait des résultats assez intéressants par rapport à l'utilisation de cet oxygène, ce qui, en fait, permettrait à l'organe, finalement, de subir un petit peu mieux cette réoxygénation au moment de la reperfusion, puisqu'on a un apport d'oxygène qui se fait pendant cette période de conservation. D'autres choses sont en train d'apparaître avec l'utilisation de gaz rares. Le gaz rare, c'est le xénon, c'est l'argon, donc qu'on pourrait effectivement utiliser dans ces machines et qui semble être assez prometteur en ce sens qu'il semble réagir sur l'inflammation et sur un certain nombre de processus de mort cellulaire durant cette conservation. Le sulfure d'hydrogène, qui est un équivalent chimique en fait d'un empoisonnement, mais d'un empoisonnement qui réalise une hibernation. C'est-à-dire que finalement, quand on essaye ça chez les animaux, alors pour l'instant, c'est que la souris qui a eu droit, le rat un peu aussi, on n'est pas allé beaucoup plus loin parce qu'on est quand même un petit peu gêné, puisque c'est quand même quelque chose qui est un poison, qui est censé être un poison et qui peut avoir des conséquences, mais il semblerait qu'il peut y avoir un intérêt si on apprend à l'utiliser correctement. On n'y est pas encore vraiment. Si l'on continue par rapport à ça, probablement que l'avenir, ce sera nos petits amis, hibernants et hivernants, qui nous apprendront certainement beaucoup de choses aujourd'hui, en particulier au niveau de leur génome. On fait toujours tout très vite dans les blocs, et je pense que Benoît pourra vous le dire, et Mathias aussi, c'est toujours tout dans l'urgence et dans la vitesse. hors en hibernant, met des jours effectivement pour se préparer à cette espèce de sommeil hivernal qu'il va avoir, en sachant qu'il y a les hibernants et les hivernants, c'est-à-dire que l'hibernant dort profondément. Je pense qu'on va avoir du mal d'un point de vue expérimental à travailler avec les grizzlies. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas tellement pressé. Plus intéressant, effectivement, avec d'autres petites espèces plus sympathiques. Alors, le loup, des steppes de Sibérie, est un hivernant, c'est-à-dire que lui, il se réveille de temps en temps pour aller chercher son steak. Bon, le tout, c'est qu'il ne craigne pas pour son steak à ce moment-là. Et ça peut être, en tout cas, extrêmement intéressant de profiter de ces modèles de la nature qui savent particulièrement utiliser le froid. D'autres choses sont en train de se mettre en place. On n'est pas à 10 ans, on est à quelques mois puisque ça a commencé, mais probablement que dans 10 ans, on aura un retour sur l'utilisation. Eh bien, c'est finalement des produits de la mer, comme par exemple ici l'hémoglobine du ver marin qu'on a testé dans notre laboratoire sur notre modèle porcin et qui nous a donné des résultats extrêmement encourageants. L'étude est en train de se mettre en place chez le patient cette fois-ci. D'autres produits qui sont intéressants, qui eux vont arriver dans une période de 4 à 5 ans. Ici, c'est un produit qui est développé par une société Poitvine et qui effectivement utilise un système chimique pour rendre quelque chose totalement insoluble, le rendre complètement soluble en le nichant finalement dans un espèce de puits ici. Eh bien, la molécule va être cachée finalement et va pouvoir être solubilisée au sein d'une solution de conservation. Ça marche en statique. Et ça marche aussi dans la machine de perfusion. On vient de finir le travail, et ça, c'est quelque chose qui va certainement arriver. D'autres molécules, là, cette fois-ci, on est plutôt à 10 ans, si on arrive à franchir un certain nombre d'obstacles au niveau européen, on pourra avoir des molécules qui agissent sur des mécanismes beaucoup plus intimes. Et là, au laboratoire, on a la chance d'avoir toute une famille de molécules que l'on teste. Et là, on a quand même des choses qui s'annoncent extrêmement intéressantes pour finalement rendre cette mitochondrie, ces cellules, capables de résister à cette période effectivement de froid, de modification biochimique qu'elle subit pendant la conservation. D'autres aspects aujourd'hui, c'est que finalement, on est en train de se rendre compte que tout ce qui va être physiologique va fonctionner un petit peu mieux. Donc là, c'est par exemple au laboratoire, on a un banc de perfusion. Le banc de perfusion nous permet de travailler avec du sang. Et là, c'est probablement des choses qui vont se mettre en place, qui vont se développer. Ça existe déjà ici pour le poumon, puisque le poumon peut être conservé effectivement avec du sang autologue, sous une cloche, évalué, et on peut effectivement modifier un certain nombre de choses durant cette période-là. Donc ça, le banc de perfusion va avoir un intérêt probablement dans les années qui viennent. On va aller vers ces outils pour plein de raisons, parce que d'abord, on pourra médicaliser finalement cette perfusion, et également, c'est-à-dire ajouter des traitements, et également évaluer ces organes. Et c'est un des points qui est extrêmement important finalement, c'est que ces organes, ils ne sont pas très bons, pas toujours très bons, et qu'un des intérêts majeurs qu'on peut avoir dans cette affaire, eh bien, c'est de les évaluer de manière optimale. Donc ça, c'est pareil, on est déjà capable de le faire, on sait faire, on a les outils. Et au niveau du laboratoire, on a la chance, on est extrêmement soutenu effectivement par nos institutions et on a des équipements qui nous permettent aujourd'hui de faire ce genre de travaux. Et là, par exemple, c'est comment est-ce qu'en 2 heures, un clinicien peut, à partir d'un petit peu de liquide de perfusion qu'il aura pris dans sa machine, être capable d'avoir un biochimiste qui lui donnera effectivement des informations sur la qualité de l'organe qui est dedans et en train de se conserver. Et je pense que si on arrive à épargner à des équipes de se balader d'un bout à l'autre de la France, d'abord, si j'ai bien compris, la facture carbone s'en portera beaucoup mieux. J'ai cru comprendre qu'on fera un certain nombre d'économies, ça Benoît pourra peut-être vous en parler. Et finalement, on pourra surtout arrêter finalement les frais et dire non, ne greffons pas ce rein, ça ne sert à rien, on va au-devant d'un certain nombre de soucis. Et ça, entre nous, ça permet déjà la notion d'une personnalisation. Et c'est le message fort qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus faire de la conservation entre guillemets standardisée de masse, mais on va faire une conservation avec un parcours entre le donneur, l'organe et le receveur. Et finalement, en personnalisant, je dirais, la qualité du donneur et donc la qualité de l'organe, on va personnaliser la conservation. La greffe, donneur vivant, le don dont vous parlez, Mathias, tout à l'heure, est certainement une conservation qui est très facile à faire puisqu'elle ne sera pas longue. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faudra pas ajouter quelques additifs, effectivement, permettant à ces reins de mieux supporter cette phase qui est finalement de quelques heures par rapport à la durée qu'on a entre 19 et 25 et 24 heures avec une conservation standard pour une mort encéphalique, pour un patient décédé en mort encéphalique. Donc, une évolution qui va se faire dans les techniques de conservation en fonction du niveau lésionnel qu'on va appréhender, finalement, au travers de nos donneurs. Alors, d'autres choses sont en train d'arriver. Comme je vous l'ai dit, là, on n'est pas à 15 ans, ni à 10 ans, ni à 20 ans, c'est maintenant. On a aujourd'hui la capacité, effectivement, de mettre en place des protocoles qui sont préliminaires pour le moment, qui sont encore au stade expérimental, mais qui vont arriver potentiellement assez vite chez les patients. Comment il faut l'avoir, cette thérapie cellulaire? Ici, c'est notre modèle de prédilection qui est le porc. On a travaillé, par exemple, dans ce projet, on a travaillé sur l'utilisation des amniocytes, donc quelque chose qui est dans la cavité utérine, finalement, et qui entoure le porc qui est au stade de fœtus. Donc on a récupéré ces porcs, on les a fait grandir, élevés par une autrui, on a récupéré leurs amniocytes et on a fait aussi grandir ces amniocytes. Et finalement, on a utilisé ces amniocytes après 7 jours de greffe. Donc le porc avait ses propres cellules, on n'est pas dans un modèle d'allotransplantation réellement. Et on a pu constater une amélioration très rapide, en tout cas, de cette récupération de fonction et surtout une limitation d'un certain nombre de lésions à 3 mois quand on a sacrifié ces animaux. Donc là, quelque chose qui est utilisable. On fait la même chose aujourd'hui avec des cellules mésenchymateuses qui sont issues des tissus adipocytaires et qui ont là aussi les grosses capacités de se modifier. Et tout ça nous amène à d'autres choses qui là sont certainement à 10 ans ou à 15 ans. Et c'est par exemple les processus de désurisation et de recellulisation d'un organe. Et là, on est dans une situation où l'organe va être débarrassé de sa consistance cellulaire. On aura le support, la matrice finalement de l'organe, et on pourra réensemencer ces structures avec le tissu et probablement peut-être même le tissu du propre patient qui pourra à ce moment-là être traité et réinjecté au niveau du cœur. Ça a été fait aujourd'hui sur le rat, c'est fait sur le porc, c'est fait sur le cœur essentiellement, mais on est en train de commencer à travailler sur d'autres organes comme le foie et comme le rein. Plus difficile pour le rein puisque une grande variété de cellules, mais là aussi, les choses sont globalement possibles et envisageables. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une publication sur la capacité, effectivement, de remodeler, par exemple, une patte de rat à partir de ces populations cellulaires. On peut naturellement utiliser la thérapie cellulaire et la faire évoluer, la reprogrammer pour qu'elle puisse effectivement se différencier. Le bioprinting, c'est l'imprimante en 3D. Là aussi, c'est pareil, on est sur quelque chose qui, à mon avis, est à 20 ans, peut-être même qu'on ne verra jamais. Alors là, c'est une oreille. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour les tissus composites probablement, parce qu'on pourra à ce moment-là les reconstituer et peut-être certainement utiliser cette matrice pour, je vous entends, pour pouvoir les utiliser chez les patients. Donc quelque chose qui peut être fait au niveau de la peau et au niveau de ces organes. Probablement plus difficile, on est ici sur du cœur, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Mais il y a un certain nombre de verrous technologiques qui sont encore à faire évoluer, à faire sauter. Probablement, il faudrait arriver à quelque chose qui soit plus proche de l'IRM dans le système, en fait, pour appliquer des couches successives. C'est encore loin, ça. Hein. Mais pour les tissus composites, franchement, à 10 ans, c'est tout à fait envisageable. On pourra faire des greffes de visage et avoir des reconstituants dessus, reconstituer une partie du tissu composite. Les bioréacteurs, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en marche. On est en train de remettre des cellules. Alors là, vous allez entendre plusieurs choses. Vous allez entendre le bioréacteur pour passer un cap aigu. On a une espèce de machine un peu primitive, quelque part, qui va servir à passer un cap aigu, un peu comme l'équivalent d'une machine de dialyse pour les insuffisants rénaux. C'est surtout pour le foie. Et finalement, le bioréacteur eh bien, reproduit finalement une vie plus ou moins artificielle avec tous les besoins qu'on a par rapport à cette vie. Alors, plus intéressant, des travaux récents d'une équipe qui est à Genève, qui travaille beaucoup dans les greffes de d'îlots de pancréas, et qui s'est intéressée en fait à reprogrammer les hépatocytes, les engainer finalement dans une matrice, et aller les implanter dans un foie qui n'est pas au stade de l'insuffisance hépatique de transplantation, mais qui a des lésions évoluées. Et là, vous mettez un certain nombre de traitements dedans. C'est l'équipe de Morel qui a travaillé là-dessus, et qui a pu effectivement démontrer qu'on pouvait faire passer un certain nombre de molécules et traiter des états inflammatoires et voir faire régresser même des états de fibrose. Également pour la trachée, il y a eu des travaux préliminaires qui ont été présentés. On peut aujourd'hui reconstituer un tissu trachéal, là aussi, avec ce type de matériel, en préparant finalement les cellules. Donc deux approches. On reconstitue finalement des petits paquets de cellules qu'on va pouvoir remettre dans les organes, ou alors on va passer le cap avec de gros bioréacteurs. Et aujourd'hui, en France, il y a des programmes qui sont en train de travailler là-dessus. Les embryons, cochons humains pour faire pousser des organes. Donc là, on est un petit peu dans la xénogreffe qui va arriver. C'est quelque chose qui est aussi faisable. Le seul problème qu'on va avoir là-dessus, c'est un problème éthique. C'est-à-dire qu'on va mettre des cellules humaines, finalement, chez un embryon de porc, qui va être capable ensuite de croître et de croître avec du tissu humanisé. C'est tout à fait faisable, ça a été fait. C'est déjà quelque chose qui est publié, effectivement, dans les journaux spécialisés. Et la démonstration de ce genre de transplantation, en fait, est tout à fait envisageable. Le seul problème, c'est quel nombre de cellules exactement on peut transplanter, puisque là, on va avoir un problème éthique. Et aujourd'hui, il y a un certain désaccord au niveau de l'utilisation de ce type d'organe, parce que finalement, le porc va vous faire un foie humain. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire un foie humain, prendre ce foie humain, finalement le greffer, ça sera parfaitement toléré. Mais le problème, c'est quel nombre de cellules on peut accepter que le porc va porter finalement pour l'être humain. Et finalement, un jour, est-ce qu'on ne va pas voir arriver des porcs tellement humanisés qu'on aura quelque part quelques problèmes éthiques à finalement utiliser ces animaux. Donc, un vrai problème éthique derrière tout ça. Et d'une manière générale, tout ce que je viens de vous raconter, ne vous inquiétez pas, c'est aussi, j'allais dire, quand même dépendant d'un certain problème éthique, parce qu'il n'y aura quand même pas toujours que des choses simples à faire. Donc, je vous remercie. J'ai été un peu rapide, mais on gagne un peu de temps comme ça.
Parfait, parfait.
Et donc, demain, effectivement, nous aurons le congrès pour l'ischémie reperfusion et les progrès envisagés. Je vous remercie.
Donc, merci beaucoup Thierry pour ce panorama de ce qu'on peut faire, vous le voyez, sur la phase de conservation avec des perspectives qui peuvent donner un peu le vertige et qui peuvent paraître de la science-fiction, mais beaucoup de ces programmes ont déjà débuté, tu l'as dit, et nous dans le service et à Tours également, on teste par exemple des molécules innovantes comme l'hémoglobine de verre marin dont tu as parlé. On va débuter l'étude et à Paris également. Donc c'est de la science-fiction, mais qui a déjà commencé pour un certain nombre de ces programmes. On va continuer avec la science-fiction et en tout cas avec la chirurgie, avec donc le professeur Barou qui va nous parler un petit peu des perspectives chirurgicales. De nombreux progrès ont déjà été faits, mais c'est peut-être pas fini.
Alors oui, ça va pas vraiment être de la science-fiction. Puis moi, je vais pas être ludique. Et je vais commencer par des choses un peu triviales et un enjeu qui est devant nous, mais c'est devant nous, donc c'est quand même le futur, qui est l'organisation des prélèvements multi-organes. Et ça commence par un drame. C'est pour ça que je dis que je suis pas ludique. Un drame que je n'oublierai jamais de ma vie. Le 19 octobre 2006, on a deux collègues qui se sont tués en partant prélever en avion. Pierre-Olivier Desnoué et Benjamin Ramu. Pierre-Olivier, il était chef de clinique, il avait trois petits-enfants, femme artiste peintre, il allait s'installer 15 jours plus tard. Benjamin, c'était un jeune interne. Et donc, ils ont payé de leur vie leur dévouement. Et c'est une idée qui est absolument insupportable. Et ça nous a amené à nous poser la question de savoir comment on était organisé. Et on est organisé comme des pingouins. C'est-à-dire qu'en fait, schématiquement, chacun va chercher son organe. Alors ça s'explique parce que la transplantation, on a commencé dans les années 50. Et effectivement, au départ, c'était vraiment des pionniers. Il n'était pas question de déléguer quoi que ce soit. C'était des techniques d'exception. Et puis chacun a commencé dans son coin, d'abord que des reins, dans un endroit, puis dans deux, puis dans trois, puis dans quatre. Puis après, le foie, le cœur, tout est devenu de plus en plus complexe. Et pour autant, on n'a jamais eu cette réflexion de savoir comment est-ce qu'on était organisé. Jusqu'à cet accident dramatique où nos cerveaux enfin se sont mis en route. Donc on s'est aperçu cette occasion qu'on n'avait pas d'assurance. Donc il n'y avait pas d'assurance pour ces deux jeunes-là. Donc ça alourdissait encore un peu le dossier. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de formation non plus spécifique pour le prélèvement. Donc on a effectivement créé cette école dont on va reparler tout à l'heure, l'école francophone de prélèvement multi-organes. Et puis on a commencé à réfléchir sur nos pratiques. Mais nos pratiques, on ne les connaissait pas, ni nous, ni nos institutions. Et donc, dans le cadre d'un master de management médical, j'ai fait une thèse là-dessus, sur l'analyse médico-économique de l'activité de prélèvement multi-organes, qui a un peu secoué dans ses résultats que je vais vous montrer, et abouti à la création d'un groupe de travail donc, au sein du ministère. Et donc, sur l'année 2011, nous avons prélevé à peu près 5000 organes, un tout petit peu moins, et je parle pas que du rein, mais de vraiment tous les organes, et nous avons pour ce faire déplacé 3651 équipes. Vous voyez que 41% des équipes sont locales, ce qui veut dire que 60% ne sont pas locales. Donc les gens vont voyager. Ils vont le faire beaucoup en voiture, sur des trajets 76%, sur des trajets relativement brefs, 66 km en moyenne. Mais un quart des trajets sont en avion et sur des distances beaucoup plus longues. Et quand vous regardez ce qu'ont fait toutes ces équipes comme kilomètres, ça vous fait la bagatelle de 1 360 000 km. Ça ne cause pas beaucoup. C'est 3,5 fois la distance Terre-Lune. Donc ça commence à causer un peu plus. Et effectivement, on brûle 240 tonnes équivalent CO2. Donc c'est un gâchis absolument considérable. Et ça coûte 20 millions d'euros. Donc on a imaginé là-dessus des mutualisations, des organisations qui seraient plus rationnelles. On essaierait de se partager le travail. Alors si on réfléchit en restant au sein des équipes de transplantation, et chacun restant au sein de son organe, un rein, un foie, un cœur, eh bien vous voyez qu'on va quand même déplacer 3625 3625 équipes, donc on ne va pas finalement réduire considérablement le nombre d'équipes déplacées. On va augmenter un peu le nombre d'équipes locales. On va quand même considérablement réduire le nombre de kilomètres, 960 000. Donc on est à 2,6 fois la distance Terre-Lune. Si on va un peu plus loin et qu'on reste encore au sein des équipes de transplantation, mais cette fois on va dire qu'on va mettre une seule équipe à l'étage abdominal et une seule équipe à l'étage thoracique. Donc l'équipe thoracique, elle est chargée de prélever le cœur et les poumons, et l'équipe abdominale, elle est chargée de prélever tout le reste. Mais si vous faites ça, là, vous réduisez de 38% le nombre d'équipes, vous descendez à 2257, et vous allez réduire encore le nombre de kilomètres, 424 000 kilomètres. Donc là, vous faites une fois et demie la distance Terre-Lune. Et si on pousse le concept encore un peu plus loin, en mettant dans la boucle les centres hospitaliers généraux, dans lesquels il y a des chirurgiens qui sont tout à fait corrects, formés, qui ont été nos élèves, qui sont passés dans nos services, et donc qui savent faire, eh bien, à ce moment-là, on ne réduira pas le nombre d'équipes, parce que de toute façon, il faut des mains pour prélever ces organes, on restera à 38% de réduction. Par contre, au lieu d'1 360 000 kilomètres, vous ne faites plus que 234 000 kilomètres et vous augmentez considérablement le nombre d'équipes locales, 84%. Et donc là, bah, le problème, c'est qu'on n'atteint même plus la Lune. Alors, le coût, bah, vous voyez, la situation réelle à gauche, c'est 20 millions d'euros. Et vous voyez qu'on donne ces 20 millions aux avionneurs, schématiquement. C'est la barre rouge et puis aux transporteurs en bleu. Et plus vous allez progresser dans cette utilisation vers la droite, et plus vous allez effectivement voir du violet apparaître, c'est-à-dire le coût des transports des organes seuls, parce que les organes, il faut continuer à les partager. Donc ils vont voyager seuls, donc ce coût additionnel, il fallait le prendre en compte. Mais vous voyez, il est pris en compte et vous avez considérablement réduit le rouge, c'est-à-dire considérablement réduit les transports par avion et aussi par voiture. Donc voilà, c'est facile, on passe de 20 millions à 9 millions d'euros. La messe est dite. Donc, on a fait un groupe de travail au ministère avec tous les représentants. Je passe là-dessus. On s'est pas mal réunis. Mais pour autant, ça n'avance pas beaucoup. Alors, pour que ce projet soit possible, et si vous voulez mutualiser les tâches abdominales, il y a une règle qu'il va falloir laisser tomber, c'est que chaque spécialité prélève son organe. Et donc, il faut absolument former les gens pour qu'ils soient capables de prélever différents organes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de structure. C'est pour ça qu'on a créer cette école francophone de prélèvement multi-organe en associant, vous voyez en bas, les logos de toutes les sociétés. La clé de ce truc-là, c'est le dialogue et c'est la communication. Et vous savez qu'on est dans un pays dans lequel on aime bien les cathédrales verticales, puis surtout pas s'échanger et échanger entre les différentes spécialités. Et bien ça, il faut le faire tomber. Et donc, on se bat là-dessus en permanence dans la transversalité. Alors, cette EFPMO, elle est sa 8e année, 400 élèves formés. Ça n'est pas assez. Il faut maintenant passer à la pratique. Et donc, ben, à la pratique, on revient à Poitiers, puisque donc, j'y viens régulièrement depuis 2009, puisque je fais partie de l'équipe INSERM que dirige Thierry. Et par ce mécanisme-là, j'ai fait connaissance des gens du laboratoire d'anatomie de simulation de la faculté de médecine de Poitiers. Et nous avons mis ensemble au point un modèle qu'on appelle SimLife, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui doit passer sur le magazine de la santé la semaine prochaine, je crois, qui est breveté maintenant, et qui permet d'avoir sur des corps, donc des gens qui ont fait don de leur corps à la science, on est capable de rétablir les conditions d'un prélèvement avec un réalisme qui est assez stupéfiant et qui va permettre de faire vraiment un enseignement pratique. Donc le gros problème qu'on a maintenant, c'est bien sûr le financement. Alors vous me direz, d'un côté, je viens de montrer qu'on dépense 20 millions d'euros dans les transports inutiles qu'on pourrait n'en dépenser que 9. Voilà, j'ai trouvé le financement. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors voilà les photos de ce laboratoire. Vous voyez qu'on est vraiment dans des véritables conditions chirurgicales. Et je veux dire qu'on est un peu décontenancé le premier quart d'heure. Puis une fois qu'on est lancé, eh bien, on oublie qu'on est sur la simulation et on a vraiment l'impression de faire un prélèvement d'organes comme si c'était vrai. Et donc on a fait une séance avec des élèves. Ça, c'est des photos de ces élèves. Vous voyez, on va jusqu'à mettre le rein sur machine en bas à droite. Et on fait une nouvelle séance. Alors cette fois, je fais venir des financeurs pour essayer de leur vendre nos techniques. On fait ça le 18 mai prochain. Alors, les difficultés, c'est de trouver les moyens administratifs de réévaluer la rémunération personnelle des acteurs. Sachez quand même dans ce pays qu'il y a encore des chirurgiens qui, à 15 ans d'études supérieures, vont passer la nuit au bloc opératoire sans être payés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça scandaleux. Donc il faut bouger ça, et là on a une lourdeur administrative dans ce pays qui est absolument étouffante. Il faut créer cette formation. Vous voyez que les idées ne manquent pas, ce qui manque c'est l'argent, et puis il faut obtenir un consensus chez les professionnels, parce que c'est vrai que certains de nos collègues sont très, très conservateurs et qu'il faut bien sûr les motiver pour avoir des choses un peu nouvelles. Alors voilà, donc conclusion de cette première partie, Alors à la fois c'est pas très ludique, à la fois c'est aujourd'hui, enfin on aurait voulu que ce soit hier, mais est-ce que dans 30 ans on n'y sera pas encore? J'espère que non. J'espère que ça va avancer plus vite, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on remorque ce truc-là. Je pense que les solutions, elles sont simples, mais on a une lourdeur administrative qui est un peu décourageante dans ce pays. Le deuxième sujet, c'est les techniques, la technique chirurgicale et la chirurgie mini-invasive qu'on voit de plus en plus. Alors, si on revient un petit peu en arrière, la technique chirurgicale décrite, qui est utilisée dans le monde aujourd'hui, elle a été décrite par un Français, qui est René Cus, que vous voyez là sur la droite, qui était notre patron jusqu'en 83. Il est décédé en 2006, mais jusqu'en 2006, il s'est tenu au courant avec la tête qui marchait parfaitement bien. C'était vraiment un grand, grand pionnier de la transplantation. 52 premières greffes à partir d'un donneur vivant, la nuit de Noël. Mais à cette époque-là, on ne connaît pas le HLA, on ne sait pas que ça rejette. Donc c'est un jeune charpentier qui est tombé de son échafaudage, qui n'avait qu'un rein. Il a perdu son rein dans le traumatisme. L'urée monte, il est en train de mourir. Sa mère arrive à convaincre les chirurgiens de faire ce prélèvement qui se fait dans la nuit de Noël. Tout va bien jusqu'au 15e jour où il y a un rejet et le jeune charpentier malheureusement meurt. En 91, c'est la première néphrectomie par laparoscopie. Néphrectomie, c'est-à-dire qu'on retire le rein. Donc c'est la première fois qu'on retire un rein sans ouvrir. Donc ça, ça a été une date clé. Maintenant, c'est quasiment tout le temps fait comme ça. Puis en 95, on va faire le prélèvement, le premier prélèvement rénal, non pas pour retirer un rein malade, mais pour donner ce rein. Par laparoscopie, ça c'est 1995. 98, première néphrectomie avec une technique particulière où, comme c'est pas très facile, pour vous compreniez la céloscopie et cette laparoscopie, comment c'est difficile, imaginez quand vous mangez avec des baguettes, manger du riz avec des baguettes et du riz pas collant, vous allez en mettre partout, vous êtes quand même beaucoup plus habile avec une fourchette et un couteau. Donc là, c'est un peu le problème qu'on avait avec la céloscopie. Et donc, il y a des gens qui ont inventé une technique où, en fait, on met une main dans le ventre, le reste se passe en céloscopie. Ce qui prouve bien que nos baguettes d'oscilloscopie, finalement, ne nous donnaient pas la sécurité, toute l'aisance nécessaire. Et donc, c'est assez logique qu'on arrive en 2001 sur la première néphrectomie donneur vivant avec un robot qui va donc nous aider. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que sur le donneur, on se doit d'obtenir, bien sûr, un greffon d'excellente qualité. Il ne faut pas que notre technique chirurgicale vienne abaisser d'une manière ou d'une autre la qualité du rein. On doit, bien sûr, être le moins invasif possible. Et on doit, alors ça je dois le mettre en premier, assurer une sécurité maximale. C'est pas sur les donneurs vivants qu'on va tester de nouvelles techniques. On ne prendra sur le donneur vivant que les techniques chirurgicales qui ont été éprouvées sur toutes les autres indications. Et pour le receveur, il faut qu'on assure une bonne préservation du greffon et qu'on limite les complications post-opératoires. Donc en fait, on veut limiter les grandes incisions délabrantes, mais on veut garder l'agilité, la précision et j'allais dire la sécurité de la main. Et on ne veut pas choisir entre les deux. Et donc la solution, c'est le robot. Ce robot qui va vous permettre d'avoir un minimum d'incisions. Donc vous allez éviter les grandes incisions. Vous restez sur le principe de la céloscopie. Simplement, vous allez arrêter de travailler avec des baguettes, vous allez arrêter de manger avec vos baguettes. Et vous allez récupérer des petits outils qui bougent dans les trois dimensions et qui vous redonnent tous les degrés de liberté d'une main. Et vous allez travailler comme un microchirurgien. Et je suis diplômé de microchirurgie, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que vous allez parfaitement bien voir. Il y a des secrets en chirurgie, c'est qu'il faut bien voir, il faut être bien exposé. Si on ne voit pas bien, si on n'est pas bien exposé, on fait un geste de gorée qui est mal fait, on rentre dans les complications. Si on voit très très bien, et c'est le principe de la microchirurgie, à ce moment-là, le geste devient beaucoup plus facile. Et bien avec ce système-là, il y a deux caméras, et donc on va avoir deux images qui vont se superposer, et on récupère la vision en 3D. Ce qu'on n'avait pas en céloscopie quand on est sur un écran. Donc ce robot a fait couler beaucoup d'encre. Bien sûr, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte 3 millions d'euros maintenant, bien plus. Tout le monde ne peut pas se le payer. Donc ceux qui ne l'ont pas disent « Ouais, c'est de la connerie, il n'y en a pas besoin. » Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le raisonner. Cet outil-là, ce n'est pas un chirurgien. Hein. C'est juste un outil un peu sophistiqué. Mais ce n'est pas plus qu'un porte-aiguille ou une pince à disséquer. La chirurgie, le chirurgien, les médecins ont du mal à comprendre, mais ça se passe là. Hein. C'est-à-dire qu'on est des cérébraux. On est des intellectuels. Et en fait, le reste, c'est que des outils. Et savoir comment on va utiliser ces outils. Donc, ces outils sont absolument merveilleux. Et vous voyez qu'ils sont en train de se diffuser. Donc, vous voyez en haut à gauche, on ne voit pas très bien, mais c'est les années 90-2001, quelques spots en Europe. Et vous voyez maintenant le nombre de robots. C'est en train de monter comme ça, en flèche, dans de très nombreuses indications. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on doit absolument assurer la sécurité du donneur. Donc, je pense que ce n'est pas sur les donneurs qu'il faut faire ses armes. Et c'est pour ça que, dans mon service, on n'a pas été novateur là-dedans, parce que quand les premières stéréoscopies ont été faites, on n'avait pas de grands stéréoscopistes dans le service. Et donc, j'ai quelques collègues qui disaient « Oh là là, mais je vais perdre des donneurs parce que je n'ai pas été équipe moderne ». Moi, ça m'a glissé sur le cuir, ça, cet argumentaire-là. Et donc, on a assuré la sécurité des malades. Et jusqu'en 2008, c'était de la chirurgie à ciel ouvert classique. Bon, après, on a recruté un stéréoscopiste de très haut niveau. 2008-2011, ça a été stéréoscopie. Et il a commencé une fois qu'il avait installé la stéréoscopie dans tout le service, sur toutes les autres indications. Et en 2011, avec le robot, une fois que tout marchait en stéréoscopie, on est passé à la stéréoscopie robot-assistée. Donc maintenant, dans le service, 100% des néphrectomies, donc les ablations de reins, partielles ou des ablations de prostate, prostatectomie, se font par robot assisté. C'est à peu près 400 interventions par an. On a une précision, un confort et une sécurité du geste qui est absolument incomparable. Alors si vous vouliez, sur le donneur vivant, montrer par des chiffres, c'est très à la mode en médecine, que ça sert à quelque chose, vous allez comprendre comment c'est juste irréalisable. Le problème de la sécurité du donneur vivant, c'est l'éventuelle mortalité. Et je commence toujours par dire ça à mes patients. Vous savez que je peux vous tuer. Mortalité faible, mais ce n'est pas zéro. C'est 0,02%. C'est 2 pour 10 000. Donc on commence par dire ça aux patients. Parce que ce n'est pas moi qui prends les risques. C'est eux qui les prennent. Et donc, si vous voulez montrer qu'une technique est moins dangereuse qu'une autre, quand vous avez un taux de mortalité de 2 pour 10 000, je vous laisse imaginer le nombre de cas qu'il va falloir mettre et le nombre d'années. Alors là, ce n'est pas en 2030 qu'on aura les résultats, c'est en 3030. Là, peut-être qu'en 3030, on aura les résultats. Et donc, vous voyez que ce robot, il ne faut pas le raisonner comme on fait dans le reste. C'est vrai que c'est cher, ça baissera, mais c'est la sécurité du geste qui est l'objectif maximal. Alors, à côté de ces techniques super modernes, on reste avec des vieux trucs comme ça. Ça, c'est les schémas que je fais. Je vais, à chaque fois qu'on a un scanner donneur vivant, je vais à la console avec le radiologue et on passe un quart d'heure, 20 minutes par dossier avec des super scanners qui nous font des reconstructions dans tous les sens et ça termine par un bon vieux dessin à la main qui veut dire que l'esprit humain, il a tout enregistré là et c'est ça qu'on affiche. Donc il y a cette espèce de paradoxe entre des techniques super modernes et puis notre cerveau qui est encore plus moderne que ces techniques-là. Alors, j'espère que ça va démarrer. Là, je suis toujours un peu inquiet. Voilà un donneur avec les différents outils qu'on a rentrés, ce qu'on appelle un gel porte qui cache l'incision. Donc vous voyez que c'est un petit peu technique. Hein. Et voilà, on est dedans. Et vous voyez les outils qui vont nous permettre. Alors d'abord, là, on est comme sur un microscope. Vous voyez très, très bien ce que vous faites. Et vous voyez ici, en bas, là, l'urtère. Hop, c'est le tuyau qui emmène, voilà, ça, là. Ça marche, ça ne marche pas, non. C'est le petit tuyau blanc que vous voyez comme ça. C'est le tuyau qu'on va disséquer et qui emmène, sur quoi on appuie là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est la veine du rein. Ça, c'est l'artère. Et vous voyez qu'on va être au ras de l'aorte. L'aorte, elle est là. Donc là, vous n'avez pas le droit de vous planter. Hein. Si vous faites un trou là, le malade, il est mort. Donc c'est vraiment extrêmement minutieux. Et vous voyez ça de manière grossie, c'est magnifié, comme si vous étiez avec un microscope. Et vous avez un contrôle parce que vous voyez la mobilité que vous récupérez avec vos outils. Et là, voilà, on va procéder à la ligature de l'artère. Et vous voyez qu'on fait comme si on était à ciel ouvert. On fait un vrai nœud. Et en chirurgie, on a l'habitude de dire que quand la vie ne tient qu'à un fil, pourquoi ne pas en mettre deux? On va en mettre trois, là. Vous voyez, on va faire ce premier nœud-là. Et puis, donc voilà, nœud sur la veine. Et puis, on va venir mettre un clip. Alors, ces clips-là, il y en a qui ont glissé. Il y a des donneurs qui sont morts à cause de ça. Ils ont glissé parce qu'on les met au ras de l'aorte. Et l'aorte, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et comme vous avez coupé l'artère court, parce que vous avez besoin de coude derrière, le clip, il s'est barré. Et là, ça se passe très, très mal. Et vous allez voir ce qu'on peut faire grâce au robot. Et ce qu'on ne pourrait pas du tout faire si on mangeait avec des baguettes chinoises, c'est qu'on va faire un surjet. C'est-à-dire qu'on va prendre un fil non résorbable. Et comme sur votre pantalon ou sur votre rideau, on va faire un surjet pour sécuriser le moignon. Et avec ça, on peut dormir sur nos deux oreilles et le malade aussi. Quand je dis le malade, d'ailleurs, ce n'est pas un malade. Donc vous allez voir, donc ça c'est le rein qui va sortir. Et vous voyez, exactement comme si on était avec nos mains, on fait ce surjet. Et vous voyez que ces outils nous donnent absolument une mobilité et on récupère toute l'agilité de nos mains. Et donc là, on a réussi par cette technique-là à concilier l'avantage de la stéréoscopie chirurgie mini-invasive et la sécurité de notre main. Donc il est évident que ça ne peut que se développer. Alors quand on regarde par exemple les 10 dernières interventions stéréoscopiques qu'on avait faites et les 42 robots assistés, la durée opérateur 132 minutes, elle n'a pas bougé. Perte sanguine 35, c'est 3 fois rien. l'ischémie chaude, c'est-à-dire le moment où vous allez mettre le nœud sur l'artère que vous avez vu tout à l'heure, puis le temps de sortir le rein, ça c'est plus long qu'un ciel ouvert, c'est 4 minutes et demie dans ce cas-là. En fait, ça n'a pas de conséquence. Ça, c'est pas terrible. C'est moins bien qu'un ciel ouvert, mais ça n'a pas de conséquence sur la fonction du rein. Et vous voyez qu'on garde nos malades, nos donneurs, 3,4 jours, donc ça va. Alors, bien sûr, on réfléchit à ça pour la transplantation. Est-ce que ça a le même avantage pour la transplantation? Alors, on a un problème, c'est la loi de Van't Hoff dont vous parlez, Thierry, tout à l'heure, c'est l'hypothermie. Alors, il disait de manière un peu provocateur, c'est parce que mon frigidaire est à 4 degrés. C'est parce qu'on a quand même décrit des lois qu'on utilise le frigidaire aussi pour conserver les aliments. Et donc, pendant la transplantation, pendant qu'on va faire la cousette, on a besoin de garder ces organes. Et si vous n'ouvrez pas, c'est de garder ces organes à froid, le plus froid possible. Et si vous n'ouvrez pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, regardez par exemple cette série. Donc, c'est encore très, très peu fait. Mais vous voyez que le temps opératoire, c'est 214 minutes. Quand vous faites une transplantation à ciel ouvert, 120 minutes, c'est fini. Ça peut être même plus court que ça. Donc là, il y a une augmentation du température qui est importante. Vous voyez que la surface, la température à la surface de l'organe est de 20 degrés. Donc là, on est très, très loin des 4 degrés. Donc là, c'est un petit peu moins évident. Qu'est-ce que ça donnera en 2030? Je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, autant le robot s'est imposé pour le, s'imposera pour le donneur, autant c'est un peu plus difficile pour la transplantation. Alors, on peut aller un peu plus loin. Et puis, vous avez entendu parler de ces effets, en fait, ces cas très médiatiques où il n'y a plus du tout d'incision. Alors, ce n'est pas possible chez tout le monde parce qu'il faut avoir un vagin quand même. Donc, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est les néphrectomies où on sort le rein par une cavité naturelle qui est la voie transvaginale. Donc, le premier cas, il a été publié en 1993. On voit que ce n'est pas aujourd'hui. La première série publiée en 2002. Donc, c'est bien sûr une alternative à la sortie par la voie iliaque avec comme avantage, théoriquement, moins de douleur. Il faut se méfier des arguments marketing qui sont souvent poussés par les équipes qui mettent ces techniques au point. Et c'est moins démonstration parce que, effectivement, vous ne risquez pas d'avoir la paroi musculaire qui lâche. Alors, vous avez entendu parler du cas de Toulouse, donc, qui a fait un peu de bruit, où nos collègues ont fait et l'opération du donneur et l'opération de la receveuse par voie transvaginale. Donc, chez les deux, il n'y avait aucune incision. Donc, vous voyez, c'est 50 ans. Donc, transplantation rénale robotique sans incision avec insertion du rein par voie transvaginale. Donc la receveuse 50 ans, c'est une néphropathie classique. Enfin classique, je veux dire, c'est pas de la chirurgie, c'est de la maladie médicale, entre guillemets. Durée opératoire 210 minutes, perte sanguine 100 ml, pas de douleur post-opératoire, pas de consommation analgique, elle se remet à marche à J1. Reprise de durée J1, bon, nous c'est J0, hein, c'est le jour même, c'est sur table. Et sortie à J10. Donc voilà, c'est encore un peu dur de savoir où, pour ce qui est de la transplantation, ces techniques vont s'arrêter. Mais vous voyez qu'en bas, cette photo un peu extrême d'éventration, où c'est la peau est encore là, mais la paroi musculaire a complètement lâché. Chez les patients âgés, c'est relativement fréquent. C'est bien sûr favorisé par l'obésité. Et c'est en plus favorisé par les traitements anti-rejet qu'on donne. C'est un vrai problème. C'est extrêmement difficile à réparer. Et peut-être que dans ce type d'indication-là, l'utilisation d'un robot peut permettre, par des incisions plus courtes et plus petites, d'apporter quelque chose. Voilà, donc les techniques chirurgicales doivent évoluer avec leur temps, mais je pense qu'elles ne doivent pas être mises au point sur le donneur vivant. C'est quand elles sont au point sur toutes les autres pathologies qu'on peut passer au donneur vivant. Et il faut bien sûr donner le meilleur aux patients, sécurité, confort, qualité. Donc pour la chirurgie robotique, en 2030, ce sera la routine, c'est une évidence. Pour la transplantation elle-même, j'ai un peu plus de mal. Là, j'ai mes lunettes, sont un peu embuées, je vois au moins clair. Je vous remercie.
Merci Benoît pour ces deux belles présentations. La première présentation qui effectivement est un problème d'organisation de la transplantation en France et je crois que tu œuvres, tu l'as montré pour qu'on améliore les choses avec un gain pour les patients et pour la santé publique en termes de coûts. Le deuxième topo, tu nous as montré des choses extrêmement intéressantes, que les chirurgiens avaient un cerveau. On est heureux de le savoir. Dire quand même que ce soit à Tours ou à Poitiers, on a les robots. Poitiers vient d'acquérir cette année le robot de dernière génération, celui que vous avez vu en photo. Et pour notre part, on devrait débuter le premier prélèvement de reins pour donneurs vivants dans le cadre d'une transplantation en mai, dans un mois, à l'aide du robot, avec un retour de nos chirurgiens urologues jusqu'à présent dans la pratique de la chirurgie robotique extrêmement favorable et positif, sachant qu'à Tours, vous avez aussi une grande expérience du robot. On a un petit quart d'heure pour discuter avec vous. Vraiment, la discussion est libre. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je crois qu'on a un panel d'orateurs qui sont tout à fait à même de vous répondre, quel que soit le sujet de la transplantation. On va vous faire passer un micro. Il faut un premier, n'hésitez pas. Il faut se lancer. Docteur Picot, de Niort.
Merci. Je voulais demander, j'ai une question là pour le professeur Roué. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, peut-être, on était encore au XXe siècle, tu faisais en plus de ton travail de néphrologue, tu travaillais également à Surgères sur le porc et sur la perfusion du porc. Et tu nous avais montré à l'époque que certaines drogues vasodilatatrices avaient un certain intérêt pour la conservation des organes. Alors, je voulais savoir si ça a pu déboucher sur quelque chose, et si actuellement, on peut également espérer pour la conservation des organes un bénéfice avec certaines autres drogues. À l'époque, c'était peut-être des drogues qui étaient tout à fait, je dirais, primitives.
Le problème, c'est que tu l'as bien dit, c'est les drogues vasodilatrices. Donc, on va commencer à être confronté à des drogues qui peuvent avoir des effets systémiques. Autrement dit, qu'on va déclamper l'artère rénale et que le rein va être vascularisé, va circuler dans le sang du receveur cette fois-ci, des molécules qui peuvent potentiellement avoir des effets. Alors bien sûr, c'est des toutes petites quantités. Elles sont protectrices. Il y a certains médicaments comme les calcium bloqueurs et tout ça qui sont des molécules utilisées qui ont effectivement présenté un certain intérêt, mais globalement relativement limité. Surtout nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que les molécules qui ont potentiellement un usage systémique sont extrêmement fliquées et sont un usage très délicat chez le patient avec une agence du médicament qui a tendance à verrouiller très 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 rapidement ce genre de choses. Le gros problème que l'on a, c'est qu'est-ce que l'on libère au niveau de la circulation du receveur. Ça l'avoue un vrai problème, mais c'est en même temps aussi un faux problème parce que c'est une manière aussi de bloquer un certain nombre d'utilisations de médicaments. Au nom du principe de précaution, qui est important en soi, mais qui est des fois peut quand même être appliqué d'une façon un peu drastique et gêner quelque peu. L'hémoglobine, par exemple, de Vermarin a pâti pas mal de ce développement potentiel parce qu'on avait effectivement besoin d'un certain nombre de critères de sécurité pour les utiliser, ce que je comprends tout à fait. Mais il y a eu quand même un temps de latence un petit peu plus long avec une certaine crainte, une certaine appréhension sur ce type de produit. Et naturellement, ces molécules potentiellement doivent être utilisées, je pense, avec une grande prudence. Et on est clair, on n'est pas parti sur l'utilisation de molécules n'importe comment, c'est évident. Mais on a aujourd'hui, je pense, de nouvelles générations de molécules beaucoup plus subtiles, sans effet systémique, qui vont agir directement au niveau de l'organe, voire même au niveau de certaines parties des cellules. C'est ce qu'on a aujourd'hui en main. On a des collègues qui sont au Japon, qui sont dans différents endroits aujourd'hui, qui développent, même en France, qui développent ces molécules. Et là, on est sur quelque chose d'extrêmement intelligent, puisque cette molécule va agir sur un temps donné, va se fixer sur une portion précise de la cellule et va finir son action quand elle sera en phase de reperfusion. Le rein sera reperfusé, cette molécule aura eu son action et elle sera éliminée. Et on a des vecteurs pour ça, pour le faire, qui sont particulièrement intéressantes et qui vont ensuite éliminer la molécule sans avoir d'effet. Donc on est en train de changer en 20 ans finalement complètement la panoplie et les molécules qu'on a maintenant sont d'un usage beaucoup plus sécurisé et en même temps beaucoup plus efficace avec une démonstration précise de la cible. Ce qu'on avait avec ces molécules aussi, c'est des fois, on n'avait pas toujours des modes d'action extrêmement précis. On avait un effet assez général, vasodilatateur comme tu disais, mais sans avoir forcément un mode d'action très précis et ça pouvait poser un certain nombre de problèmes.
N'hésitez pas.
Oui, bonsoir. Et quelque chose que je comprends mal, c'est le rejet, le système HLA, c'est d'accord. Comment est-ce qu'on explique que chez le donneur vivant, il n'y ait pas d'incompatibilité ABO ou HLA? Vous disiez que 25 épouses ont transmis à leur mari. Elles sont évidemment incompatibles, a priori. Alors que sur un décédé, prélèvement chez un mort encéphalique, il y a un risque là.
Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la compatibilité HLA, qui est si importante au niveau immunologique, elle est quasi impossible dans la population générale. Par contre, avec un frère ou une sœur, vous avez une chance d'être complètement compatible, mais uniquement avec un frère et une sœur, pas d'autres donneurs vivants. Donc, on est dans une situation qui concerne que donneurs vivants appartenant d'une fratrie. Par exemple, si vous recevez le rein ou vous donnez un rein à votre enfant va être l'addition, si je puis dire, de vous et de votre femme. Et donc, elle a la moitié de vous et de votre femme. Donc, votre enfant est forcément HLA incompatible, puisque vous risquez le rejet avec le HLA et tout ça. Par contre, si vous êtes de frères et sœurs, et vraiment des frères et sœurs, donc des mêmes pères et mêmes mères, vous avez une chance sur quatre, c'est comme ça, c'est au niveau génétique, vous avez une chance sur quatre d'avoir un nombre d'HLA ou de molécules d'HLA qui soient complètement compatibles. En fait, c'est un tout petit peu faux ce que je vous raconte, mais bon, c'est pour la simplicité, puisque même quand on est complètement compatible, deux frères et sœurs qui ont la même carte d'identité immunitaire, si je puis dire, ils ont un vécu différent et donc ils ont un système immunitaire un peu différent et donc on peut même rejeter un rein d'un frère qui est full match. Donc c'est pas complètement impossible. Mais pour rester dans la simplicité, donc un donneur vivant peut être full match quand une seule situation, c'est frère ou sœur. Et d'ailleurs, quand vous allez voir votre néphrologue, éventuellement ceux qui attendent un greffon, c'est la situation immunologique la plus intéressante. Mais du coup, ça crée aussi éventuellement une pression particulière, parce que ça veut dire quelque part, ah ben celui-là, ça sera mieux que quelqu'un d'autre, parce que du point de vue immunologique, c'est mieux. Et donc là, on rentre dans des discussions qui dépassent finalement uniquement le don et tout ça. C'est que peut-être, parfois, c'est déjà arrivé chez nous, qu'on avait une sœur qui voulait absolument donner, mais elle n'était pas compatible avec son frère, alors qu'il y avait un frère qui ne voulait pas donner, avec qui il était fâché, qui était full match. Donc là, vous faites... je sais pas ce que vous faites. Vous allez dans la cathédrale, à l'impasse de la cathédrale, à Chepotier.
Je suis bien d'accord, un sur quatre pour frère et sœur. Mais là, c'était le cas des épouses qui donnaient à leur époux.
Attendez, alors je crois qu'il faut, il y a de la confusion et c'est vrai qu'on n'est pas très clair. L'ABO d'un côté, HLA de l'autre, on va pas les mélanger. ABO, vous avez quatre groupes et vous mettez toute la population mondiale dans quatre groupes sanguins. Et vous avez un phénomène qu'on va utiliser pour faire de la BO incompatible, qu'on ne comprend pas très bien, qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un donneur-receveur incompatible en ABO, vous retirez les anticorps, vous faites une fenêtre, ces anticorps ils vont revenir au bout d'un certain temps. Mais si vous glissez la greffe dans cette fenêtre, quand les anticorps reviennent, ce n'est pas la catastrophe. Ça, c'est le phénomène d'accommodation. Et il n'est pas tout à fait vrai pour le HLA. Parce que ce n'est pas les mêmes anticorps, ce n'est pas la même biologie. Donc ce qui est vrai pour la BO incompatible ne l'est pas dans le système HLA. Alors l'autre partie de la réponse vient du fait que quand on parle d'HLA incompatible, c'est là qu'on a un espèce de... On ne parle pas des mêmes choses. Effectivement, quand vous allez choisir votre compagne ou votre compagnon, vous ne connaissez pas son HLA. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir monsieur le maire en disant « Ah, ça me va bien ». Il y a même une étude qui montre, il y a une étude assez amusante, qui a été publié dans la revue d'immunologie, qui disent que vous aurez d'autant plus de plaisir sexuel que vous êtes HLA différent, pour vous dire. Donc vraiment, entre mari et femme, par exemple, eh bien, quand vous faites, si vous regardez les différentes combinaisons possibles, c'est les moins HLA compatibles, entre guillemets. Mais on peut faire une greffe HLA sans aucune compatibilité, on s'en fout, on le fait depuis longtemps. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des anticorps anti-HLA dirigés contre les antigènes donneurs, parce que là, ça se passe mal. D'accord ? Et ces anticorps-là, très schématiquement, on ne les a pas à l'état naturel. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des greffes entre voisins, entre amis, entre conjoints, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les antigènes identiques. Alors maintenant, si vous allez regarder la durée de vie du greffon, il est vrai que plus vous avez des antigènes communs, ou en tout cas, moins vous avez de différences, qui reviennent la même chose, mais dit dans l'autre sens, et mieux ça marche. Donc si vous prenez les frères et sœurs dont vous parlez, Mathias, Donc, votre HLA, alors, pour vous, il faut que vous compreniez que le HLA est un système très complexe. C'est des millions de possibilités. Je vous disais, ABO, c'est 4 possibilités. Là, c'est des millions de possibilités. C'est votre carte d'identité biologique. C'est ce qui fait qu'on est tous différents ici. Et on peut raisonner à pourquoi c'est comme ça. Alors, moi, j'ai une vision un peu finaliste. Mais si on était tous avec le même HLA, ce système HLA, il joue un rôle central dans le système immunitaire et notamment pour présenter l'antigène. Et bien on serait un peu, si on avait tous le même HLA, comme des dominos alignés. Quand vous faites tomber le premier, vous faites tous tomber. Donc le virus qui rentrerait, qui trouverait la faille, dégommerait toute l'espèce humaine. C'est-à-dire que la grippe humaine, la grippe espagnole ne ferait pas 40 millions de morts. Elle dégagerait tout. Donc finalement, on n'est pas aligné. Tant mieux. Mais ça gêne un peu les transplanteurs. Alors, les frères et sœurs, donc votre carte d'identité biologique, en fait, vous allez récupérer la moitié de papa, la moitié de maman, et vous collez ça en deux. Donc, évidemment, les frères et sœurs, si vous avez dans votre fratrie un de vos frères ou vos sœurs qui a fait la même manip que vous, qui a pris la même moitié chez papa, la même moitié chez maman, vous êtes HLA identique. Donc là, vous n'êtes pas des individus génétiquement identiques, parce qu'on parle que de la partie émergée de l'iceberg. Hein. Tout ce qui est en dessous, on ne le voit pas, on ne connaît pas tout. Mais cette partie-là, c'est la même et c'est très compatible, entre guillemets. Et donc là, vous allez avoir un résultat de greffe qui est largement, qui va durer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que vous avez une demi-vie de greffon que vous pouvez espérer entre 30 et 36 ans. Si vous faites de la greffe entre conjoints, avec cette compatibilité bien moindre, vous allez plutôt être sur 12-15 ans. Donc vous voyez, voilà, c'est pour ça que ABO compatible et HLA compatible, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des greffes ABO incompatibles et vous pouvez voir des greffes entre conjoints qui marchent.
Et aujourd'hui,
je ne sais pas si je réponds à votre question.
Aujourd'hui, il y a les greffes réalisées avec donneurs vivants, frères, sœurs, HLA 100% compatibles, ce qu'on appelle full match, donc 100% compatibles, ont encore besoin d'un traitement anti-rejet. Parce que, comme on vous l'a dit, on ne connaît pas tout, il n'y a pas que le HLA. Et donc, on a toujours besoin d'un traitement anti-rejet. La seule situation dans laquelle on n'a pas besoin de traitement anti-rejet après une greffe aujourd'hui, c'est les jumeaux vrais. Voilà. C'est ça. Ou si vous avez été, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si vous avez reçu une greffe de moelle osseuse par le passé du donneur de rein, qui fait que votre système immunitaire n'est pas le vôtre, n'est en fait celui du donneur de rein. Voilà. Mais à part ces deux situations, aujourd'hui, il y a toujours besoin d'un traitement anti-rejet.
Et la greffe a démarré comme ça. 54 Boston, des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux. Et donc, le donneur a donné à son frangin, qui a épousé son infirmière, ils ont fait une famille. Et quand on était au congrès à Boston en 2004, le donneur était là. Donc, il a eu droit à une ovation un peu chaleureuse, comme vous pouvez imaginer. Donc, c'était 50 ans plus tard, le donneur était là. Donc, ça a commencé comme ça au départ. On ne pensait qu'on ne pouvait greffer que dans le lien familial. Et c'est progressivement qu'on a appris qu'on pouvait sortir de ce lien.
L'idéal.
Pour te laisser réfléchir, tu vois, je te laisse. Je vais faire juste un petit préambule. Aujourd'hui, le Graal en transplantation, c'est vraiment.
C'est ce que j'allais dire.
Chez qui on peut arrêter, ou en tout cas vraiment alléger de manière très importante le traitement anti-rejet. C'est cibler les patients peuvent bénéficier d'un arrêt. Voilà. Il y a dans cette salle, je ne dirais pas qui, mais il y a dans cette salle un patient qui est greffé rénal depuis plus de 30 ans, qui a un traitement anti-rejet extrêmement minime, quasi rien, d'accord ? Et il a un greffon qui marche très correctement. Okay ? Bon, qu'est-ce qui fait que ce patient-là est différent des autres et qui fait que son voisin, on va lui arrêter ou diminuer les doses et il va faire un rejet ? On ne le sait pas aujourd'hui. Donc les marqueurs qui aujourd'hui nous permettent de dire, voilà, ce patient-là, on va pouvoir arrêter, voire baisser, on ne les connaît pas bien. Et ça, ce sera une avancée majeure, de pouvoir, encore une fois, faire un traitement anti-rejet à la carte et adapter notre puissance immunosuppressive au profil de patient, parce qu'aujourd'hui, les problèmes en transplantation, à 30 ans, c'est plus des problèmes de complications de l'immunosuppression que des problèmes de rejet. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, pour la suite, je laisse Mathias répondre.
Mais c'est très compliqué, c'est le Graal aussi de la transplantation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voudrait qu'on devienne tolérant au sens, au sens immunologique de la chose, du greffé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la tolérance, c'est quelque chose d'actif. C'est surtout pas une absence de réponse. C'est une réponse, c'est moi. En fait, il faudrait faire en sorte à ce que notre système immunitaire reconnaît le greffon comme être quelque chose de soi, donc quelque chose de positif. Donc une tolérance, c'est pas une absence de réaction, c'est une réaction positive vis-à-vis de ce qu'il a. Donc ça, il faut déjà comprendre. Donc la tolérance, c'est quelque chose que c'est le graal de la transplantation. L'idéal, c'est de manipuler le système immunitaire au moment de la greffe de telle sorte à ce qu'il reconnaît déjà le greffon comme du soi. C'est l'idéal parce que on n'aura pas besoin de traitement d'immunosuppression au long cours. Donc Thierry, il a donné quelques pistes avec les organes humanisés chez le porc, et bon, bref, des choses comme ça, parce que plus on a l'impression que c'est du soi, moins on a besoin de traitement immunosuppresseur. Il y a les Américains qui ont fait des protocoles de manipuler le système immunitaire de façon très très fort au moment de la greffe, mais très très fort. Irradiation, des traitements, des anticorps, des plétans, en arrêtant après les traitements immunosuppresseurs, il parle de weaning, d'arrêt progressif, avec arrêt d'immunosuppression sur 2-3 mois. Mais en tout cas, les papiers actuellement publiés, ils font une vingtaine ou une trentaine de patients. Il y a quand même seulement 2 ou 3 ou 4 patients qui finalement aboutissent à ça, et les autres, ils payent cher avec des rejets. Donc c'est vrai que ce que disait Thierry Antoine, là, c'est que de trouver finalement, de mesurer le système immunitaire, comment... Il y a des tests cellulaires qui vont venir sur le marché pour voir comment on réagit les cellules du donneur vis-à-vis des cellules du receveur du donneur. Ça va venir pour pouvoir monitorer le traitement immunosuppresseur. Et probablement, dans 10 ou 20 ans, ça sera différent. Ceci dit, vous imaginez aussi que c'est malheureusement aussi le versant de l'autre côté, c'est que l'industrie n'a pas un intérêt farouche de trouver le traitement qui manipule le système immunitaire le jour de la greffe et plus donner de médicaments. Donc en fait, c'est quand même une problématique donc c'est une recherche académique qui ne peut être académique. Et si elle est académique, il nous faut des moyens d'État pour ça. C'est pas des moyens Et donc là, il faut être conscient de ça. Un greffé aujourd'hui, c'est un traitement immunosuppresseur long cours. C'est un certain gain pour l'industrie. S'il trouve le truc qui rend tolérant le jour de la greffe, il va coûter très très cher au moment où on l'injecte, ou sinon l'industrie en tout cas n'a pas d'intérêt. Je suis un peu brutal de le dire comme ça, mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est quand même un peu vrai.
Et alors, un peu moins loin, il y a quand même, on progresse quand même dans les voies de signalisation, comprendre les mécanismes par lesquels s'activent les cellules qui vont faire ce rejet. On a quelques médicaments quand même qui sont pas si loin que ça. Donc le premier, c'est le Belatacept, pour lequel on est en train de se battre. Et là, on a un problème politique, qui est d'ailleurs pas ce qu'on n'a pas qu'en transplantation, qui est, ces médicaments sont de plus en plus sophistiqués, ils coûtent de plus en plus cher, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est un peu comme le robot, hein, quand vous avez le monopole et que vous avez un vrai effet thérapeutique, vous pouvez faire chanter tout ce que vous voulez. Le coût de l'hépatite C est assez éloquent. Donc le Belatacept, c'est un peu pareil. Et là, il y a une bagarre. Donc la Société francophone de transplantation essaye de pousser au maximum. J'ai quelques SMS qui sont arrivés pendant la réunion là-dessus, ce sujet-là, parce que le médicament doit passer en commission de transparence en début de semaine. Donc on essaye de faire en sorte qu'on puisse mettre ce médicament à disposition. Alors ça, ce principe est assez intéressant. On va bloquer ce qu'on appelle les voies de co-stimulation. Pour vous donner un exemple simple, prenez une prise de courant. Donc vous avez deux fiches, hein, vous avez une phase, un neutre, et cassez une de ces fiches et vous la mettez dans la prise. Vous avez la prise occupée, essayez d'allumer votre lampe, vous ne l'allumerez pas. Donc c'est un peu ça le principe de bloquer ces molécules de co-stimulation. Donc là, on parle du Belatacept, mais il y en a d'autres derrière. Puis il y aurait des cocktails. Donc ça progresse. La tolérance, je ne sais pas si on sera capable un jour d'avoir la tolérance. Quand on voit la complexité de ce système immunitaire, on ne va pas le détester, hein, c'est quand même lui qui fait qu'on est encore là, et c'est le gardien du temple. Hein. Moi, j'ai quelques doutes, si vous voulez, le fond de ma pensée, j'ai quelques doutes sur notre capacité à vraiment pouvoir induire une tolérance, c'est-à-dire qu'on met un organe qui n'est pas à nous, qui n'a pas notre HLA, et puis il ne se passe rien. J'ai quelques doutes là-dessus. Par contre, dans les voies métaboliques qui sont en cours d'élaboration, de compréhension, et sur des médicaments qui seraient de plus en plus efficaces et de moins en moins agressifs et de mieux en mieux tolérés, ça va progresser, mais on se heurte à un vrai problème, c'est comment les financer.
Moi, j'ai une petite question sur la chirurgie. Mais d'abord, on va parler voiture. Il y a 10 ans, on avait des ordinateurs dans nos voitures. Quand la pluie tombait, l'essuie-glace se mettait en marche. Quand le jour tombait, les phares s'allumaient. Et on était capable de mettre le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse adaptée. Et aujourd'hui, demain, la voiture, maintenant, roule toute seule. Elle reconnaît la route, elle adapte la vitesse toute seule, elle se débrouille dans les embouteillages. Est-ce que demain, en chirurgie, avec les robots, tu nous as montré tout ce qu'on pouvait faire avec le robot, on pourrait très bien imaginer que le robot est capable de reconnaître l'artère, la veine, l'urtère, le rein, et on parlait de prélèvement, bah, le robot, il sait ce qu'il a à faire. Et avec le chirurgien à côté, de même que quand il y a une voiture avec l'ordinateur...
Non, enfin, jusqu'au bout de ton concept, tu te débarrasses enfin du chirurgien.
Non. Est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver à une chirurgie complètement robotisée?
Je vais te retourner la question. Une voiture qui roule toute seule le fait comment?
Elle le fait avec un conducteur quand même présent dans le véhicule.
Non, je m'en fous. Non, tu as des métros qui n'ont pas de conducteur. Non, je ne pense pas que ce soit ça la réponse. C'est parce que tu as jalonné la route d'émetteurs qui vont guider l'engin. Donc, si tu veux imaginer ça en chirurgie, il faudrait jalonner à l'intérieur pour qu'on puisse reconnaître les différentes postures. Alors, je peux concevoir qu'un jour, par des méthodes Doppler, oximétrie, on soit capable de reconnaître que dans un tuyau qu'on a en face de soi, ce soit du sang oxygéné, donc c'est une artère. Ça, je veux bien le concevoir. Maintenant, il faudrait que tu viennes avec nous au bloc pour voir un peu le bordel que c'est de temps en temps. Lui, il nous expliquait les variations anatomiques, mais c'est sans arrêt, quoi. C'est que... Et là, j'ai encore opéré ce matin, c'est quand on réopère en plus, tout est complètement modifié. Ça ressemble à rien. Je vois mal comment on serait capable d'automatiser ça. Et quand je vois comment on utilise notre cerveau pendant le bloc, c'est pour ça que je te challengeais un peu tout à l'heure, je vois pas bien comment une machine peut faire ça, tu vois. Donc une machine peut nous permettre de tout miniaturiser, de nous remettre une image en 3D, de nous redonner nous permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire à la main comme ça. Je ne vois pas bien la machine remplacer notre cerveau.
Donc on a encore les chirurgiens sur le dos.
Ouais, je le crains, Antoine, je le crains.
D'autres questions? Bon, de toute façon, vous allez pouvoir continuer à discuter avec nos orateurs autour d'un petit apéritif poids de vin, puisque je crois qu'il y a quelques spécialités locales. Merci à tout le monde, merci à vous d'être venus, merci aux organisateurs, à l'Espace Mendès France, et puis on se retrouve pour un petit pot.